BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi en direct. On est à la radio, on est à la télé, on est sur le web et bien sûr, bonjour à vous qui nous écoutez en podcast à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes le mardi 16 avril 2024. Au programme de l'émission, eh bien les bourses qui sont dans le rouge ce matin, le CAC 40 qui a mis fin à une série de 4 séances qui enchaîne 5 séances de repli, mais en toile de fond, les doutes des investisseurs sur la trajectoire des taux de la Fed demeurent importants. On va décrypter ça, on va en parler dans toute l'émission. Le pétrole repart à la hausse aussi, on en parle dans quelques minutes. La saison des impôts est ouverte. Le point sur les nouveautés et les pièges à éviter dans votre déclaration avec Jean-Baptiste de Pascal d'Interinvest dans quelques minutes. À 10h30, comme tous les jours, votre dose d'économie avec Nicolas Dose. Côté bourse, Antoine Larigauderie depuis Euronext qui sera avec nous sur une grosse partie de la première demi-heure. Et puis, nos deux traders poursuivent la séance du jour depuis Euronext. Ce sera le match des traders. Aujourd'hui, on vous coach. L'argent n'a pas d'odeur, mais l'explication de cette expression est plus surprenante qu'il n'y paraît. Pour comprendre ses origines, c'est Jean-Marc Daniel qui nous emmènera au règne de l'empereur romain Vespasien. Le question-réponse du jour portera sur la Chine et plus précisément sur la japonisation de la Chine. Est-ce que la Chine devrait se retrouver dans la même situation que le Japon des années 90 et qu'est-ce que ça signifierait pour nous, investisseurs particuliers? Décryptage vers 11h30. Et puis aujourd'hui, on investit dans les voitures, deux chevaux, mini, mais aussi Porsche. On va parler course auto et comment des modèles populaires peuvent devenir des pièces d'exception et des objets d'investissement. On sera avec la maison d'enchères Agut. Et puis au programme, il y a vous. Vous réagissez, l'adresse est direct@bfmbusiness.fr. Mais c'est aussi sur LinkedIn, je suis connectée, je vous lis en direct et aussi en différé. Il est l'heure de partir à Euronext, rejoindre Antoine.
BFM Business, c'est aussi sur internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Antoine, cette fois pas de miracle, si je puis dire. Notre CAC 40 subit un gros coup de mou. On est dans le rouge et on est surtout sous les 8000.
Oui, absolument. Le miracle, il a eu lieu hier, c'est-à-dire qu'on est arrivé quand même à résister à une forte série de baisses du côté de Wall Street. On voyait les marchés européens résister à peu près correctement. Puis là, on lâche tout, hein, très concrètement. Et encore, c'est plutôt bien payé, puisqu'on était en baisse de plus d'1,5% à l'ouverture. Là, on ne perd plus qu'1,3%. Mais effectivement, on tombe sous les 8000 points. On est à 7941. On revient sur nos niveaux de la fin février. Donc, globalement, on est dans une situation quand même difficile. Le DAX à Francfort, moins 1,4%, moins 1,3% pour l'Eurostoxx 50. Là, depuis une bonne demi-heure, les niveaux sont stabilisés. On ne bouge plus, ça, c'est plutôt encourageant. Mais partout, des indicateurs de stress. On va beaucoup en parler lors de cette émission, mais effectivement, les taux d'intérêt se sont très largement tendus, alors notamment du côté américain, ce qui explique cette contre-performance remarquable de Wall Street. Le Dow Jones sort quand même de 6 séances de baisse consécutives. On a les taux à 2 ans, ceux qui sont le plus représentatifs des anticipations concernant les taux de la Fed, qui atteignent quasiment 5%. Donc, on a vraiment des signaux de stress très probants sur le marché. On est au-delà des 19 points sur l'indice VIX, l'indice de la volatilité américain. Il est au plus haut depuis Halloween, hein, pour l'anecdote. Et du côté du pétrole, ça se passe un petit peu mieux. On n'a pas de débordement des 90$. Pour l'instant, le Brent est à 90,20$. Les principales baisses, ce sont des valeurs industrielles liées aux grands cycles économiques. On a eu les chiffres de la croissance chinoise ce matin, qui étaient spectaculaires, qui étaient nettement au-dessus des attentes. Mais les perspectives sont vraiment pas très très bonne pour la suite. Et ça fait tomber ArcelorMittal qui tombe de 6,3% à 23,92€. Le secteur auto avec Renault moins 2,9% à 48,67€. Stellantis moins 2,72€ à 24,31€. Les rares hausses, il n'y en a qu'une hein, sur le CAC 40, c'est Téléperformance qui gagne 0,5% à 88,64€. Puis à noter que sur le SBF 120, on s'est replacé autour de Newen qui gagne 3% à 28,84€ ou sur SES qui gagne 2% à 5,61€. Le CAC moins 1,24€. 7945 points et l'euro faiblit encore à cause du différentiel de taux entre Europe et États-Unis. On teste maintenant le niveau d'un 0,6.
Antoine, on vous retrouve dans quelques minutes. Vous serez avec nous dans le talk. On va reparler évidemment climat de marché. On touchera également un mot de Tesla et aussi de Salesforce hein, qui perdait hier 7% en bourse. Et puis à 11h, on parlera des taux. Hein, parce que C'est là que tout se joue finalement. Votre histoire financière du jour, ce sera sur les taux. Antoine, à tout de suite. Antoine, restez connecté. On va faire le point sur l'actualité patrimoine et financière qui vous concerne.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Vous avez entendu Antoine, hein, les bourses européennes qui ont ouvert à la baisse ce mardi matin avec des statistiques économiques en Chine jugées plutôt décevantes et puis un regain de tension géopolitique évidemment qu'on va continuer à surveiller sur BFM Business toute la journée. Un mot de pétrole qui repartait à la hausse. Certains économistes mettent en garde contre un embrasement au Moyen-Orient et les conséquences que ça pourrait avoir sur le baril. On pourrait dire que les 1000 dollars ne sont plus un tabou, mais pour le moment, nous ne sommes qu'autour, si je puis dire, de 90 dollars pour le Brent de mer du Nord. L'or est au-dessus de 2380 points après un pic à 2443 dollars hier mardi. Et puis le Bitcoin est autour des 63 500 dollars. Le halving aura lieu dans 3 jours, vous le savez. Nous en parlerons avec toute l'équipe, Amaury de Tonquédec et nos experts. Et nous serons en émission spéciale vendredi. Un mot de Tesla qui supprime 10% de ses effets. Le ralentissement de la demande de voitures électriques conduit Tesla à réduire son nombre d'employés au niveau mondial. Les réductions pourraient atteindre plus de 20% dans certaines divisions. Deux de ses plus hauts dirigeants ont démissionné au milieu de la plus grande vague de suppression d'emplois jamais enregistrée par ce constructeur automobile. Et plusieurs analystes se préparent à une baisse potentielle des ventes pour l'année. Nous allons en reparler avec Antoine Larigaudry dans quelques minutes dans le talk. Et puis je vous renvoie à un article de Bloomberg en anglais. Mer plus calme et nuit plus claire. Depuis Pâques, la saison du yachting des plaisanciers en yacht commence en Méditerranée. Ça concerne l'élite financière mondiale. En face de cette navigation de plaisance, Bloomberg décrit un autre type de navigation, une navigation de fortune, des migrants qui tentent de traverser cette même Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Les derniers rapports des autorités italiennes indiquent que la Tunisie est devenue le nouveau point de départ vers l'Europe pour éviter la Libye. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées au moment du lundi de Pâques autour d'une île qui accueille d'habitude des milliardaires, dont Giorgio Armani et puis le monde de la mode. Ces migrants ont déclaré avoir payé 1000 dinars tunisiens, soit 320 dollars pour le voyage. Parmi les arrivées figuraient des personnes originaires de Gambie, de Guinée-Conakry, de Guinée-Bissau, du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie. Article à retrouver sur le site de Bloomberg. On va continuer à parler de l'actualité des marchés et puis évidemment de ce climat particulier. Nous allons passer une tête du côté de nos traders pour faire le point sur la séance en cours.
Tout pour investir, le match des traders.
Et ce matin, c'est Michel Delobel de MW Gestion qui est avec nous, ainsi que Gilles Santacreux de Boursicoté.com et ses algos. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Hier, Paris a mis fin à une série de 4 séances de repli. Ce matin, on est dans le rouge, on est en dessous des 8000 points. Gros coup de mou, là cette fois, il n'y aura pas de miracle peut-être, Michel, pour démarrer. Qu'est-ce qu'on fait dans une journée comme celle-ci sur les marchés ?
Alors c'est intéressant, alors pas de miracle, il faut peut-être attendre ce soir quand même parce qu'on a vu que les marchés depuis quelques temps nous surprenaient un petit peu par rapport à leur vigueur, mais c'est vrai qu'il y a eu un affaiblissement qui a commencé vendredi en 8 avec un premier gap baissier. Là ce matin on ouvre un deuxième gap assez important d'une centaine de points. Alors pour l'instant on est en train d'essayer d'aller grignoter un petit peu, on est en train de revenir vers la zone des 7980 en gros qui avait soutenu le marché en fin de semaine dernière, mais c'est vrai qu'on a quand même un signal baissier qui vient confirmer une petite faiblesse de la semaine dernière. Là, pour moi, le principal objectif dans les prochains jours, on va dire, ça serait la zone des 7820 qui correspondait à un autre gap ouvert le 22 février. Voilà, pour l'instant, ce n'est qu'une consolidation. Il ne faut quand même pas oublier que depuis la fin du mois d'octobre, on avait quand même connu une forte hausse du marché avec juste une petite pause en tout début d'année. Donc, pour l'instant, pas de panique. Hein. L'environnement est quand même assez tendu entre l'inflation, entre le regain de tension au Moyen-Orient. Donc, voilà, c'est pour l'instant une saine consolidation après avoir comment les choses évoluent dans les prochains jours. La difficulté quand on a un gap comme ça en tout début de séance, c'est de savoir est-ce que le marché va accélérer à la baisse et vraiment partir dans des amplitudes de repli beaucoup plus importantes. Pour l'instant, voilà, on voit une vraie stabilisation depuis le tout début de séance. On hésite entre continuer à accélérer le mouvement baissier et puis essayer d'aller tester les supports de fin de semaine dernière qui sont devenus des résistances. Voilà, attendons de voir la mi-séance et sans doute l'ouverture de Wall Street qui dictera la fin de séance. séance en Europe.
Et oui, surtout qu'on est dans la saison de publication des résultats du premier trimestre. Hein. Donc ça va aussi continuer à apporter des informations. Gilles, qu'est-ce que vous surveillez aujourd'hui? Comment réagissez-vous à ce que vient de nous dire Michel?
Alors, il y a beaucoup de choses sur des niveaux où on est à peu près raccord. On surveillait la zone des 8024. C'était un premier retracement de Fibonacci de l'ensemble de la hausse hein, qui avait été marquée précédemment. On vient donc de casser cette zone. On avait un niveau de support à 7975. Ce niveau de support, s'il était cassé à la baisse, eh bien, ça donnait un signal baissier. Donc, on l'a cassé sur gap. Donc, signal baissier confirmé et relativement puissant. Et donc là, si on s'en tient au retracement de Fibonacci, on a un deuxième objectif à 7880 points, qui n'est plus très très loin, et effectivement le gap du 22 février. On est dans une configuration technique qui est donc baissière, toujours phase de consolidation. Ce n'est que sous la zone des 7880 points que l'on commencerait à avoir des signaux d'un potentiel retournement. Mais pour l'instant, du point de vue moyen terme en tout cas, on reste dans une phase de consolidation, qui ne remet rien en cause. D'un point de vue macro, ce qui se passe, c'est assez intéressant. On a un petit peu un effet ciseau, puisque ces tensions géopolitiques pourraient faire remonter les cours de l'énergie, du pétrole notamment, et cela pourrait faire repartir l'inflation à la hausse. Quand on sait que la hausse du mouvement au niveau des indices correspond au fait que l'on avait un espoir de baisse des taux, cela vient contrarier justement cet espoir. Et entre les tensions géopolitiques et le fait que les taux pourraient ne pas baisser aussitôt que prévu, si j'ose dire, eh bien, on a un double effet qui justement justifie cette baisse. Au niveau de mes algos, on reste sur une dynamique qui pourrait continuer à la baisse et notamment s'accélérer en deuxième partie de cette semaine, donc à partir de demain ou jeudi. Et donc clairement pour le moment, en plus on a beaucoup de volumes aujourd'hui, des volumes supérieurs à la moyenne, donc après l'ouverture de ce gap et donc un rebond qui ne parvient pas pour l'instant à combler ce trou de cotation. Donc clairement on va observer ce qui se passe. Si on revenait au-dessus des 7975 points, on pourrait commencer à avoir un affaiblissement de ce mouvement baissier, mais là pour l'instant effectivement il faut regarder vers le bas effectivement cette zone des 7880 points pour éventuellement détecter une phase d'accélération.
Si je peux vous faire un peu de vocabulaire, quel est le mot pour résumer une journée qui commence comme ça, un peu qui commence vite et vers le bas, si je peux dire. Michel, est-ce qu'il y a un état d'esprit qui résume, un mot qui résume l'état d'esprit dans lequel il faut être aujourd'hui?
Un mot en particulier, j'en ai pas qui me viennent comme ça. Enfin, il faut, comme dit Gilles, pour l'instant, on a déclenché un signal de baisse, donc il faut plutôt regarder vers le bas et profiter là peut-être des tentatives de rebond vers les supports de la semaine dernière pour prendre des positions baissières ou couvrir en tout cas les positions haussières quand on en a. Voilà, il faut pas s'emballer non plus parce que les gaps comme ça qui créent des trous de cotation, comme disait Gilles, il faut s'en méfier parce que est-ce que tout le mouvement de crainte s'est fait à l'ouverture ou est-ce qu'on va enchaîner et poursuivre la baisse en fin de séance? C'est difficile. On a vu des fois des gaps qui étaient comblés dans la journée et puis un contre-pied que subissaient les investisseurs. Je suis pas sûr que le climat actuel et la forte hausse qu'on a eue depuis la fin du mois d'octobre justifie qu'on ait un contre-pied et puis l'environnement macro et géopolitique va dans le sens d'une baisse. Mais c'est vrai que les marchés ont été tellement solides ces dernières semaines, ces derniers mois, par rapport aux mauvaises nouvelles qui ont pu s'accumuler, qu'on n'est pas à l'abri, malgré tout, d'un retournement à Wall Street en fin de journée et que le CAC repasse la zone des 8000 et 8028 points qui ont été cassés ce matin.
Gilles, pour finir, est-ce qu'on est toujours dans un scénario boucle d'or, là, où tout serait un petit peu tiédasse?
Ah, ben là, on a une remise en cause. Parler d'un mot, c'est la crainte hein, qui domine aujourd'hui. Ce qu'il faut en fait quand on a un mouvement baissier comme ça, c'est identifier justement les causes de cette baisse. Là, j'ai commencé à l'aborder. Donc c'est cet impact justement des taux et des prix des matières premières par rapport à l'évolution des taux et de l'inflation. Donc ce qu'il faut, c'est surveiller un petit peu les éléments qui pourraient justement alimenter cette baisse pour voir si elle peut continuer ou pas. Donc on a les éléments macro. Donc aujourd'hui, il faut surveiller le pétrole, il faut surveiller les taux obligataires, il faut aussi surveiller le dollar index, puisqu'en fait un dollar index qui monte, eh bien peut justement avoir un impact aussi sur tout ça. Et puis ensuite on a les éléments techniques, donc Michel l'a très bien dit, un gap, je veux dire, n'est pas forcément comblé tout de suite, le fait qu'il, par exemple, qu'il en fin de journée ne soit pas comblé, ce sera un signal de force baissière, donc il faudra le prendre en compte. Et ensuite on a les niveaux, moi j'ai d'autres indicateurs qui me montrent que pour l'instant il n'y a pas d'espoir d'un retour à la hausse, comme je vous l'ai dit, c'est 7975, tant qu'on est en dessous il faut regarder à la baisse. Et donc entre le macro et le technique, on a vraiment des éléments qui nous permettent d'observer ce qui se passe et d'essayer d'anticiper justement pour se couvrir au mieux par rapport justement à cette baisse de marché.
Merci messieurs pour ce décryptage de cette séance qui commence plutôt dans le rouge, voilà, signal baissier. On vous retrouve un peu plus tard dans la semaine, vous le voyez, pour ceux qui nous suivent en image, l'ensemble de l'Europe est dans le rouge aussi ce matin, les bourses européennes qui ont ouvert en baisse largement ce mardi matin. À suivre, on va discuter des actus qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier, on va revenir sur Tesla, on va revenir sur Salesforce aussi qui finissait bien dans le rouge hier aux États-Unis, et puis on va parler impôts. Bah oui, vous savez, c'est tout pour investir, on parle de tout ce qui concerne vos finances. Merci à nos deux traders, merci à Michel Delobel de MW Gestion et merci à Gilles Santacreux de Boursicoté.com. À suivre le débat.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Et ce matin, on débat de moult sujets. Nous sommes d'une part avec Jean-Baptiste de Pascal, le directeur général délégué d'Interinvest. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Lorraine.
Vous étiez déjà avec nous la semaine dernière, mais on vous a fait revenir parce que on avait besoin de vous pour continuer à comprendre quelque chose à notre déclaration d'impôt. On va être très dans l'actu, on va zoomer avec vous sur les nouveautés, mais surtout les pièges à éviter en ce début de période fiscale, de déclaration fiscale 2024. Antoine Larry-Gaudry, depuis Euronext, est encore avec nous. Rebonjour cher Antoine.
Oui Lorraine.
Et puis Amaury Tonquédec va nous rejoindre dans quelques minutes.
Bonjour.
Parce qu'on va se poser la question de l'usage refuge du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin joue son rôle de valeur refuge dans le contexte géopolitique extrêmement compliqué que nous traversons ? Plus que l'or, moins que l'or, on verra ça tout à l'heure. D'abord, Antoine, peut-être un mot côté valeur. On a parlé de Tesla qui licencie, qui supprime 10% de ses effectifs. Certains pensent que ça pourrait monter à 20% ses suppressions d'emplois. Expliquez-nous pourquoi il faut surveiller cela de très près.
Alors déjà parce que quand une entreprise aussi novatrice que Tesla est rattrapée par des fondamentaux bêtes et méchants de l'industrie automobile, bah oui, forcément c'est un monde qui change et c'est pas la première fois qu'on le dit à cette antenne. Donc oui, quand il y a moins de demandes, quand il y a des interrogations stratégiques sur le futur, bah oui, on dégraisse et c'est ce qui arrive à Tesla. Et Tesla qui licencie, de mémoire, ça fait très très bizarre. J'ai bien l'impression qu'il s'agit quand même d'une première, et puis surtout à ces niveaux-là, c'est pas des ajustements. Là, c'est vraiment un dégraissage, donc 10 ou 20%, vous en avez parlé. Mais il y a une autre annonce qui a quand même refroidi les marchés, c'est le départ d'un personnage clé chez Tesla. Il s'agit du responsable de tout ce qui est propulsion électrique. C'est quand même au cœur du modèle économique de Tesla. Voilà, il a décidé de partir et, manque de bol, ce haut responsable est aussi maître d'œuvre de la fameuse Tesla qu'on attend toujours. Vous savez, la petite Tesla, la Model 2, alors on a commencé à l'appeler la Model 2, mais enfin la Tesla plus abordable, la Tesla compacte, qu'on va pouvoir vendre peut-être un petit peu mieux que les Tesla 3, alors qu'ils sont vendus comme des petits pains, mais avec un taux de pénétration bien supérieur, parce que là, il s'agirait de créer une voiture compacte citadine, un petit peu à la dimension d'une Golf électrique, pour vous donner une idée. Donc on a un départ stratégique, on a des annonces de licenciement parce que voilà, point de vue perspective, ça ne va pas. Point de vue perspective de vente, on en parle beaucoup, on a certaines zones géographiques très difficiles, notamment la Chine. On a des marges qui sont en train de baisser à vitesse grand V parce qu'il faut bien écouler les Tesla qui commencent à vieillir. Et on est prêt à faire des efforts sur la marge pour pouvoir les écouler plus rapidement. Donc ça, c'est de la marge en moins, de la rentabilité en moins. Et effectivement, Tesla, la scorecard, elle ne s'améliore pas. Depuis le début de l'année, le titre perd 35%. Alors, il s'aggrave pas plus que ça, on va dire. Mais encore une fois, on a l'impression que Tesla est vraiment sorti du scope des titres en vue et semble, encore une fois, rattraper par les problématiques structurelles, industrielles des grands constructeurs automobiles généralistes.
Antoine, haute valeur sur laquelle il faut revenir ce matin, c'est Salesforce qui a perdu plus de 7% parce que rumeur à Wall Street que Salesforce pourrait faire une offre sur Informatica pour 11 milliards et Salesforce n'est pas très connu pour réussir ses opérations d'acquisition, si je résume très mal et très vite. Dites-nous en plus.
Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que Salesforce, on se dit Salesforce, ils se suffisent à eux-mêmes. Salesforce, c'est le. Alors c'est vrai que c'est un secteur qui passe un peu sous le scope du grand public, mais ça pourrait être des Magnificent Seven. Il faudrait pour ça qu'il ait un peu plus de capitalisation boursière, un peu plus de muscles, un peu plus d'impact auprès du grand public et auprès des investisseurs. Mais c'est un leader d'une norme qu'on retrouve partout dans le monde, qui est le CRM, qui est la gestion des données. Et là, on le voit se lancer éventuellement à l'assaut d'une société, alors qui représente une bouchée de pain par rapport à sa capitalisation boursière. Salesforce, c'est 250 milliards de dollars de mémoire. Informatica, c'est aux alentours des 11 milliards. Mais voilà, on se dit, Salesforce, ils suffisent un peu à eux-mêmes, c'est une norme en tant que telle. Qu'est-ce qu'ils vont aller risquer une opération sur un groupe, alors certes, qui est spécialiste de la gestion des données, la gestion du cloud, donc qui lui donnerait une brique supplémentaire pour s'imposer face à des concurrents éventuels sur certaines activités comme Amazon, par exemple. Mais voilà, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont se lancer là-dedans alors qu'on a un contexte monétaire extrêmement incertain, que la Fed est sur le point d'un petit peu chambouler le monde en disant, finalement, les baisses de taux, c'est pas pour maintenant, on va attendre un petit peu. Donc tout ça est nécessairement fatal aux valeurs de croissance en ce moment, et ça explique la piètre performance du Nasdaq notamment. Donc on se dit, qu'est-ce qu'ils vont lancer cette opération en plein milieu de cette phase boursière compliquée, de ces phases géopolitiques aussi très compliquées à gérer, qui rendent nécessairement le financement de ces opérations beaucoup plus compliqué. Donc voilà, interrogation autour de Salesforce. Maintenant, la scorecard de Salesforce, elle est pas si dramatique que ça si on regarde bien du côté des performances. Oui, c'est vrai qu'on perd 9,5% sur un mois, mais enfin on gagne quand même un petit peu plus de 35% sur un an, ce qui reste quand même une excellente performance. C'est pas un Magnificent Seven, mais il pourrait être prétendant au titre.
Il pourrait être dans le top 10 si un jour il passe à 10, c'est Magnificent. Un mot de Bitcoin avec vous Antoine et avec vous Amaury. Hier, on se demandait en préparant la séance d'aujourd'hui si le Bitcoin servait de valeur refuge, comme on lui prête ce rôle depuis quelques mois, et on voulait avoir votre regard Amaury là-dessus. Est-ce que le Bitcoin fait le job de valeur refuge ?
Alors, ça dépend quel horizon de temps on prend. C'est sûr qu'avec ce qui s'est passé ce week-end, on a eu sur le Bitcoin quasiment 10% de baisse dans la nuit de samedi à dimanche avec les événements géopolitiques malheureux qu'il y a eu. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ça fait partie des seuls actifs qui étaient cotés en temps réel. C'est-à-dire que le week-end, les marchés traditionnels ne cotent pas. Le Bitcoin était en cotation réelle, donc c'est un peu le seul qu'on a vu réagir en temps réel. Maintenant, on a perdu 10%, qu'il a assez vite regagné. Donc certes, le marché était dans le rouge. Maintenant, quand on regarde sur un an, à l'instant où on se parle, on est quand même à plus 110%. Donc quand on dézoome, on voit que ça tient quand même fort. Même si ça peut faire un peu peur à court terme que c'est volatile, le Bitcoin tient. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la réaction du Bitcoin par rapport aux autres cryptos. On voit que ce qui est les altcoins, donc le reste du marché, pour la plupart, elles ont perdu 20-30%. Donc la dominance du Bitcoin ce week-end n'a jamais été aussi forte depuis 3 ans. On était à plus 53%. Ça veut dire que la capitalisation totale du marché crypto était représentée à 53% par celle du Bitcoin. Donc c'est intéressant de voir que le Bitcoin est quand même malgré tout résilient. Et puis quand on regarde directement le Bitcoin sans regarder ce qui se passe autour, on est, vous l'avez dit Lorraine tout à l'heure, à 3-4 jours du halving. Et historiquement, à chaque fois, le Bitcoin est quand même très volatile dans cette période-là. Et c'est une période qui et de correction. Donc voilà, on a un moins 10% qu'on est en train de récupérer. On oscille en gros entre les 60 000 et les 73 000 dollars, le dernier record du Bitcoin. Donc on est dans une sorte de range. Donc oui, on est dans le rouge. Maintenant, je trouve que là, sur le long terme, ça tient quand même bien. Et puis il y a aussi des histoires de taux. Voilà, Antoine en parlera tout à l'heure. Je trouve que pour l'instant, le Bitcoin est assez résilient.
Les taux, effectivement, Antoine, vous nous en parlerez dans une grosse demi-heure. On dédiera votre histoire financière du jour. Et comme on passe vraiment d'un sujet à l'autre depuis le début de cette émission, nous allons sans transition parler de nos impôts avec vous, Jean-Baptiste de Pascal, de l'équipe Interinvest, parce qu'il y a de la nouveauté du côté fiscalité. Il y a donc quelques pièges à éviter. Vous nous faites un petit top 3, finalement, ce matin, des pièges auxquels nous devons prêter attention pour ceux et celles qui sont déjà connectés et qui sont au boulot pour déclarer leurs revenus. entre autres dans leur déclaration, cher Jean-Baptiste. À quoi on doit faire particulièrement attention là ?
Bah, le top 1 des pièges et des nouveautés, c'est aussi les revenus des plateformes. C'est un peu le bazar, on a du mal à s'y retrouver et c'est le piège assuré. Parce que comment on déclare les revenus de ces plateformes ? Je ne sais pas si vous êtes adepte de Vinted, mais où est-ce qu'on déclare ces revenus sur Vinted ? Est-ce qu'on les déclare ? Combien il faut d'opérations ? C'est un vrai sujet. Alors la réponse, c'est simple. Tout ce que je revends d'occasion, si j'ai fait moins de 2000 euros ou moins de 30 reventes, je n'ai, quoi qu'il arrive, rien à déclarer. Et en l'occurrence, tout ce qui est d'occasion que j'ai revendu, qui m'appartenait, que j'avais déjà acheté, ce n'est pas fiscalisé. Sauf objet de luxe ou un peu objet d'art que je vais revendre plus de 5000 euros avec potentiellement de plus. Là, c'est exonéré. Donc, rassurons-nous pour nos dressings, on n'a pas à déclarer ce qu'on a revendu sur les plateformes.
Ok, en dessous de 2000 euros, on ne fait rien. Quid des comptes à l'étranger ? À Moriella, on parle de Bitcoin. Souvent, les gens opèrent leur finance Bitcoin sur des plateformes étrangères. À quoi faut-il faire attention ?
Alors déjà, c'est... Comment savoir qu'on a un compte à l'étranger ? Parce qu'effectivement, on a ces plateformes qu'on ouvre ici en France avec des banques ou des plateformes qui opèrent ici. Et comment savoir si le compte est à l'étranger ? Alors, c'est tout simple. Il suffit de regarder sur le RIB les premières lettres. Si vous avez FR, c'est bon, c'est un compte français. Pour les autres lettres, c'est que c'est un compte à l'étranger. Donc, un DE pour N26, c'est de l'étranger. Un LT, c'est de l'étranger. Donc, il suffit de regarder sur le RIB les deux premières lettres et on sait si FR, c'est en France, tout le reste, c'est à l'étranger. Et si c'est à l'étranger, effectivement, quel que soit le montant, et même si on a zéro sur le compte, il faut le déclarer en fin de sa déclaration, il faut le mentionner et mentionner combien on a sur ce compte pour que l'administration puisse le suivre. Pour certains, c'est pré-rempli d'une année sur l'autre, et pour d'autres, il faut l'ajouter, donc il faut faire cet effort d'aller rajouter soi-même les différents comptes à l'étranger. C'est pas que le compte en Suisse, c'est aussi les comptes qu'on peut avoir sur des plateformes en ligne.
Et oui, notamment en Allemagne, on ne le sait pas forcément. Il y a des petites cases à ne pas oublier, vous nous rafraîchissez la mémoire, peut-être par exemple pour les parents qui ont des enfants au collège ou au lycée ou même étudiants.
Exactement, il y a quand même trois réductions d'impôts un peu offertes ou gratuites. C'est si on a des enfants qui sont collégiens, lycéens ou en études supérieures qui donnent droit à des réductions d'impôts qui peuvent aller jusqu'à un peu plus de 150 euros. C'est une case à cocher, il faut pas l'oublier. Elle est assez simple, mais il faut la faire. Et la même chose pour les revenus des étudiants ou des apprentis. C'est un abattement qu'on doit faire systématiquement soi-même et non pas automatiquement sur les revenus. Donc ne pas l'oublier, parce que si vous ne faites pas cet abattement, eh bien vous serez fiscalisé sur la totalité des revenus de votre enfant étudiant ou enfant apprenti qui est à votre charge.
Donc, et attention, parce que les apprentis gagnent leur vie.
Exactement, et fiscalisé dans votre tranche haute d'imposition.
Bon, on finit sur un mot, emploi à la personne, service à la personne, parce qu'il y a à savoir, pour la première année d'emploi salarié à domicile, il y a une petite case qui permet de bénéficier d'un abattement.
Exactement, pour la première année où on déclare un salarié à domicile, on peut bénéficier d'un plafond majoré. On n'est pas à 12 000 euros de dépenses, mais à 15 000 euros de dépenses qui peuvent générer du crédit d'impôt, donc 50% de crédit d'impôt. Et quand on le cumule avec des enfants à charge, et on peut en cumuler jusqu'à deux, ça peut vous donner jusqu'à 18 000 euros déductibles. Donc ne pas oublier, la première année où on déclare un salarié à domicile, et ce qu'on connaît le plus, c'est en général la nounou. Une nounou qu'on se déclare à domicile, on peut aller jusqu'à 18 000 euros de dépenses déductibles pour la première année.
Voilà. Tesla, Bitcoin, impôts, on s'occupe de vos finances personnelles à 360 degrés dans Tout pour investir. Merci beaucoup Jean-Baptiste de Pascal de l'équipe Interinvest. Merci à Maury qu'on retrouve tout à l'heure en bout d'émission. Et puis merci Antoine qu'on retrouve dans une demi-heure pour le point marché et puis l'histoire financière du jour. Vous restez avec nous, rapide publicité et après Nicolas Dose vient vous donner votre dose d'économie. A tout de suite.
Tout pour investir, dose d'économie.
Comme tous les jours, notre docteur de l'économie, Nicolas Dose, prend les manettes de Tout pour investir. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nous allons parler de la course aux économies. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé avec vous.
Oh bah c'est le début, oh, c'est la suite, oh bah c'est pas fini.
Elle s'accélère à Bercy, cette course, pour trouver les nouveaux milliards nécessaires. On apprend que l'apprentissage va être touchés. Dites-nous, Nicolas, ce que prépare le gouvernement.
Eh bien, tout simplement, de couper dans les aides publiques que l'État verse aux entreprises qui font appel à un apprenti. Donc, on va être très précis, parce que on n'est pas en train de mettre fin au dispositif, non, mais de l'amputer. Donc, un décret se prépare pour le 1er mai mettre fin à l'aide qui peut atteindre jusqu'à 6 000 euros lorsqu'une entreprise embauche un alternant de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation. C'est important de bien préciser que ça concerne la prime accordée pour l'embauche d'un alternant de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation, c'est-à-dire en fait ceux qui sont à la fois en formation dans un institut de formation et à la fois en formation pratique dans une entreprise. Cette prime à l'apprentissage est totalement maintenue à 6 000 euros pour les apprentis de formation initiale. Je précise parce qu'on a l'impression qu'on met fin au dispositif. Ça n'est pas le cas. Donc, les contrats de professionnalisation, si on prend les chiffres de la DARES du mois de janvier 2024, du début de l'année, on en avait 91 000.
Oui.
C'est pas rien, 91 000.
Non.
Mais sur pratiquement 1 million d'apprentis, c'est quand même, ça reste minoritaire. On était à peu près à 116 000 contrats de ce type-là en 2023, d'après les mêmes chiffres. Et donc, je rappelle que c'est le premier coup de canif important que l'on donne dans ce dispositif qui a vu le jour en juillet 2020. On sortait du confinement et c'est là où on décide d'une vaste politique d'aide publique à l'apprentissage qu'on n'avait jamais menée, qui a produit des résultats absolument époustouflants, avec des primes qui à l'époque pouvaient aller jusqu'à 8 000 euros, qui ont été réduites à 6 000 euros et qui donc là sera supprimée, la prime sera supprimée pour les contrats de professionnalisation. C'est l'annonce du jour.
Bon, aide généreuse hein, qui ont quand même encouragé beaucoup d'entreprises à se tourner vers l'apprentissage. Néanmoins, est-ce que vous trouvez que ces coûts dans ces aides à la formation sont justifiées?
Ma réponse est non. Franchement, ça fait des années que la France se disait comment faire décoller l'apprentissage. On a lancé une politique dédiée à l'apprentissage, on y est parvenu. Ça fait des années qu'on se dit qu'il faut investir vraiment dans la formation des jeunes. C'est ce qu'on fait. Mmh. Et puis voilà qu'on est rattrapé par la patrouille, que le déficit se creuse, qu'il faut montrer un peu patte blanche, que dans une urgence absolue, on va gratter des milliards dans tous les sens avec une absence de réflexion totale. Moralité, on va demander au ministère du Travail de supprimer 1,1 milliard d'euros de crédit. Je sais pas, on a le troisième taux de chômage le plus important de la zone euro. On a besoin de politique de l'emploi, on a besoin de formation professionnelle, on a besoin d'investissement dans la jeunesse et on tape dedans. Je considère qu'on est vraiment dans un contresens économique et même d'ailleurs un contresens politique. Je ne comprends pas qu'on arbitre sur ces terrains-là, alors qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on pourrait aller chercher des économies.
Oui, et vous l'avez dit, cette politique de soutien ou de développement de l'apprentissage, elle a plutôt marché. Mmh. Alors pourquoi, dans ce cas-là, Bercy s'attaque à un truc qui a marché?
Deux raisons. D'abord, ils sont morts de faim, donc ils courent après le moindre euro d'économie dans un état d'urgence absolue. Là, c'est branle-bas de combat à Bercy. Mmh. Les notes s'empilent sur le bureau de Thomas Cazenave, des notes dans des feuillets bleus, une par une, ils vont commencer à regarder où est-ce qu'on peut aller chercher des économies. C'est un travail de fourmi. Mais là, on voit quand même, on tape dans quelque chose qui fonctionne et qui pendant des années n'a pas fonctionné. Il y a un moment, les choses m'échappent. Ouais. Il y a des choses qui fonctionnent pas en France qui pourraient mériter d'être regardées à la loupe. Alors après, je vois bien la logique de Bercy. C'est vrai que ça a tellement bien marché finalement ce dispositif de l'apprentissage qu'il a fini par atteindre une facture astronomique.
Ouais.
On avoisine à peu près les 20 milliards d'euros à l'année. C'est un montant absolument énorme. Et on s'est rendu compte que on avait visé très large. Alors on avait créé des effets d'aubaine un peu dans tous les sens. Et là où je m'inquiète, c'est que c'est une politique qui marche, qui coûte cher. C'est vrai qu'on essaye d'y trouver des économies comme ce qui va être fait là. Pourquoi pas? Mais je crains que ce ne soit qu'un début. Objectivement, l'annonce du décret là, qui va concerner à peu près, on va dire, 100 000 contrats d'apprentissage, de professionnalisation, il n'est pas en train de tuer le dispositif.
Oui.
Mais malheureusement, je redoute que ce soit un début et que d'autres mesures suivent. Parce que c'est facile d'aller récupérer des crédits sur l'apprentissage. Et notamment, il y a cette idée qui circule qu'il faudrait concentrer l'ensemble des crédits de l'apprentissage aux publics qui sont les plus concernés, c'est-à-dire les bacs, bac plus 1, bac plus 2, et peut-être considérer que bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 n'y ont pas accès. À ce moment-là, là, ce sera vraiment très restrictif. Donc voilà, j'ai un peu de mal à suivre quand même la logique de Bercy, même si je vois très 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 bien la course au milliard qui est effrénée actuellement.
Bon, en tout cas, c'est un des dossiers sur la table, vous l'avez dit, de Thomas Cazenave. On verra si, effectivement, ça sera mis en place, cette volonté de
raboter. Là, le décret, visiblement, c'est parti.
Bon, ce rabotage qu'on analysera. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Dose, dont la chronique est à retrouver en podcast et en replay d'ici quelques secondes sur notre site et l'application BFM Business. Et vous le savez, comme l'ensemble des chroniques de Nicolas, sur YouTube, pour que vous aussi, vous participiez à la discussion, à la réflexion, donniez votre avis sur cette course aux économies et est-ce que c'est une bonne idée de s'attaquer à l'apprentissage, on le rappelle, spécifiquement aux embauches, aux contrats de professionnalisation des plus de 30 ans. À suivre, on va s'intéresser à nos petites et moyennes valeurs avec Eric Lewin.
Tout pour investir en portefeuille.
En portefeuille avec vous, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Bonjour Eric.
Bonjour ma chère Lorraine.
Nous allons faire le point, comme tous les mardis, avec vous sur les indices mid et small. Comment se porte notre CAC ?
Bah écoutez, le CAC 40 est flat sur la semaine, il gagne 7% depuis le début de l'année. Par contre, small et mid, c'est un peu la soupe à la grimace, moins 1%. Le CAC small ne gagne que 0,2% depuis le début de l'année. Le CAC mid, 5,2%. Donc l'écart entre le CAC mid et le CAC 40, c'est que de 1,5%. Donc ça devrait s'inverser, mais c'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu, même s'il y a beaucoup de résultats d'entreprise.
Beaucoup de résultats d'entreprise. Vous allez surveiller quoi en particulier cette semaine ?
Alors, ce que je vais surveiller, moi, je vais surveiller surtout les big caps cette semaine. Je vais surtout surveiller du côté d'LVMH et de L'Oréal. Pourquoi ? Vous avez vu que sur la Chine, on a un PIB qui est sorti ce matin, qui est ressorti un petit peu meilleur que prévu, mais on sent que sur le mois de mars, ça patine sur la production industrielle et sur les ventes de détail. Et donc, sur LVMH et L'Oréal, ce qui est intéressant, ce sont deux titres qui ont perdu 8% en l'espace d'un mois, tout simplement parce qu'on s'inquiète de la Chine. Donc, c'est vraiment les deux résultats que je surveillerai cette semaine. Il y en aura d'autres, il y aura de l'Edenred, il y aura également de l'Exilor Luxottica.
La Chine, nous en reparlerons dans 50 minutes, hein, les investisseurs qui auraient pu être assurés par cette publication de PIB du premier trimestre, mais qui ne le sont pas tout à fait. Et puis LVMH, vous l'avez précisé Eric, qui publiera ce soir post-clôture, hein, ce soir pour ceux qui nous écoutent en podcast, nous sommes mardi 16 avril. On s'arrête sur deux valeurs avec vous. D'abord, on part dans les solutions de paiement avec iPay. Vous retenez cette valeur aujourd'hui, pourquoi ?
iPay, écoutez, une très belle publication. Donc on est dans le monde des fintech, solutions de paiement, plus de 4000 clients. Résultat annuel, donc le chiffre d'affaires, on le connaissait, plus 11% à 65 millions d'euros. On a, ce qui est intéressant, une marge d'EBITDA de 15%, une marge opérationnelle courante de 7,4%. En 2022, ils avaient perdu 7,8 millions. En 2023, ils gagnent 2,2 millions. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'on a deux actionnaires, BG Invest et Eximium, qui ont 29% du capital. Donc, à mon avis, un moment ou un autre, il pourrait y avoir opération sur le capital. La seule petite problématique dans ce dossier, c'est une dette financière de 24 millions d'euros, ce qui fait un gearing, c'est-à-dire un ratio endettement net sur fonds propres de 100%, puisque les capitaux propres sont de 24 millions d'euros. Mais ce dossier n'est pas très cher, parce que je ne vais pas rentrer dans trop de ratios ésotériques. Quand on regarde la valeur d'entreprise rapportée à l'EBITDA, on est à 6, ce qui n'est pas très cher. Donc, il y a deux impacts sur ce dossier. Un impact actionnariat et un impact value avec un dossier de recovery qui n'est pas très cher.
IPHIPAY pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast. Deuxième valeur que vous retenez ce matin, c'est Vogo, V-O-G-O, qui annonce une augmentation de capital de 5 millions d'euros. Vous retenez cette valeur, pourquoi Eric ?
Alors d'abord, Vogo, un petit mot, c'est une Sportech créée en 2013, spécialisée des solutions audio et vidéo dédiées bien évidemment au sport. Vous avez par exemple des solutions vidéo pour les arbitres, assistance à l'arbitre, et ils ont une activité intéressante qui est l'assistance pour la protection pour les commotions cérébrales. Vous savez qu'il y a de plus en plus de sportifs qui sont victimes de commotions cérébrales, et donc là, avec leur solution de vidéo, un médecin peut voir exactement ce qui se passe en termes de problématiques de commotions cérébrales. Ils ont un nouveau modèle d'affaires qui s'appelle TAS, qui est basé sur des contrats locatifs de longue durée, c'est-à-dire plus de récurrence. Alors, 2023, il y a une baisse du chiffre d'affaires de 20% à 9,6 millions, mais à cause du nouveau modèle, on a eu un EBITDA qui a été négatif à hauteur de 557 000 euros, sauf que il a été négatif au premier semestre, mais positif au deuxième semestre, à hauteur de 310 000 euros. Alors, la levée de fonds, 5 millions d'euros à 4,04 euros. Ça fait 4 actions anciennes pour une nouvelle. Elle est sécurisée à hauteur de 75%. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les actionnaires qui souscrivent, il y a deux footballeurs. Je ne sais pas si vous êtes spécialisé sur le football, mais comme vous avez une grande culture, Marcel Lorraine, je suis sûr que oui, il y a Raphaël Varane et il y a Aurélien Tchouaméni qui ont investi notamment dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des sportifs qui sont au capital. Alors c'est pas pour ça que ça va être un succès, mais ça veut dire quand même que les solutions de Vogo sont des solutions qui ont de la valeur. L'idée de cette augmentation de capital, c'est d'accélérer la croissance à l'international et financer les nouveaux développements. Alors l'action, elle a perdu 9% en une semaine. lié bien évidemment à cette augmentation de capital, parce que quand il y a une augmentation de capital, on a tendance à vendre la valeur. Moi, pour moi, je suis pas du tout actionnaire, donc je suis totalement neutre dans ce dossier, mais je serais plutôt partisan, pour ceux qui sont actionnaires, de participer à cette augmentation de capital. À noter que ABO, qui était entré au capital, vous savez, ABO, c'est une autre boîte cotée dans les équipementiers sportifs, qui était rentré au capital à 5,75 €, c'est-à-dire que bien plus haut que le cours actuel, souscrit également à cette augmentation de capital. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui aiment le sport, et ben Vogo, c'est vraiment la belle petite Sportec, assistance vidéo, assistance, je le dirais, sur les commotions cérébrales. Donc on peut aller sur ce dossier, je précise, pour ceux bien évidemment qui sont actionnaires. Pour les autres, on attendra que l'opération ait lieu pour s'intéresser à nouveau au dossier.
Voilà, avec un prix unitaire de 4,4 €, vous me dites une petite décote faciale de 15% par rapport au prix. Raphaël Varane et Aurélien Tchouaméni, bah finalement c'est des footballeurs. Bon, Raphaël Varane, il est retraité. Aurélien Tchouaméni, il est toujours en activité. Quelque part, les biotech ont leurs experts scientifiques, et bien les sportech ont leurs sportifs en activité ou retraités. Merci beaucoup, cher Eric Lewin, pour cette revue d'actualité sur nos petites et moyennes valeurs et ce qu'on doit regarder en particulier cette semaine. On vous retrouve mardi prochain, cher Eric. Est-ce que vous savez que l'argent n'a pas d'odeur ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression ? Nous allons la décortiquer et réfléchir à ce qu'elle signifie, et puis surtout réfléchir à ses origines avec Jean-Marc Daniel. À suivre, à tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
L'argent n'a pas d'odeur. Comment dit-on ça en latin, Jean-Marc ?
Pecunia non olet. Alors, pecunia, ça veut dire l'argent. Je rappelle, j'avais déjà eu l'occasion d'en dire un mot. Pecunia, ça vient de pecus, le vulgum pecus. C'est le troupeau vulgaire. Le pecus, c'est le troupeau. Et donc, la richesse pour les Romains, l'argent, c'est de l'activité agricole et essentiellement l'élevage de bovins.
La propriété bovine.
La propriété bovine. Alors, pecunia non olet, c'est associé à un empereur qui est Vespasien. Vespasien, il règne sur Rome entre 69 et 79. Quelques éléments de contexte que je rappelle à nos auditeurs téléspectateurs, pour ceux qui auraient oublié leur cours de latin et leur cours d'histoire romaine.
Contexte très contemporain.
Contexte très contemporain, d'ailleurs.
Un prédécesseur qui aurait vidé les caisses.
Voilà, exactement. En fait, en 64, donc...
64 avant notre ère.
Non, après notre ère. Ah, bon. En 64, nous sommes en 64.
Ah oui, après, oui, pardon. Et en 0064.
Voilà, 0064. Et donc, en 64, Rome est incendiée. L'empereur de l'époque, c'est Néron. On ne sait pas très bien si c'est lui qui est à l'origine de cet incendie. Il va accuser les chrétiens. C'est la manifestation pour la première fois de l'existence de cette religion. Et... il engage donc des travaux de reconstruction qui ne débouchent pas avant sa mort, puisqu'il est assassiné en 68. 69, c'est une année qui est une année où Rome connaît plusieurs empereurs, des guerres civiles, des affrontements, et Vespasien triomphe. Et il arrive avec un programme de reconstruction qui est énorme.
Les infrastructures.
Suétone, qui est l'historien romain qui a écrit cette période, qui a décrit cette période de l'histoire de Rome, parle de 4 milliards de sesterces. Et les historiens, depuis, ont évalué à 10 milliards de sesterces le PIB de l'Empire romain. Donc le coût de la reconstruction de Rome représentait 40% du PIB. Il fallait donc trouver énormément de recettes. On fait des propositions à Vespasien. On lui propose d'abandonner la construction d'un bâtiment qui existe encore, qui est le Colisée. Mm-hmm. Et Vespasien dit non, non, je garde le Colisée, mais je vais trouver de nouvelles recettes pour financer sa construction. Et donc Vespasien... réfléchit au fait que, dans l'occasion de la réorganisation de Rome, que l'on reconstruit, on va installer un peu partout des amphores dans lesquelles les gens vont pouvoir se soulager, c'est-à-dire vont pouvoir uriner. Et l'idée vient à Vespasien de récupérer cette urine et de la revendre à un certain nombre de gens qui utilisent à l'époque l'urine comme un détergent.
Notamment les teinturiers, une industrie de la teinturerie qui est basée sur l'urine à l'époque.
Sur l'urine. Ça fonctionne sur l'urine et des esclaves, parce que pour manier l'urine, à la différence de l'argent, a une odeur. Et alors justement, cette idée heurte un certain nombre de sénateurs. Il faut dire que Vespasien est d'origine plébéienne. Il appartient à une très vieille famille de plébéiens qui ont été tribuns de la plèbe. Et au Sénat, c'est encore les patriciens qui dominent. Donc, il a un problème de légitimité vis-à-vis de l'élite romaine. Donc, on lui fait son procès de façon assez régulière. Et en particulier, on lui fait le procès d'utiliser l'urine pour gagner de l'argent. Et son fils qui le défend... rapporte à Vespasien l'attaque dont il a été l'objet à cause de l'utilisation de l'urine pour récupérer des recettes fiscales. Et Suétone raconte qu'à ce moment-là, Vespasien prend un sesterce et puis il le montre à Titus, son fils, et lui dit « Ça sent là, qu'est-ce que tu sens ?» Et Titus dit « Mais rien. » Eh bien oui, parce que pecunia non olet, l'argent n'a pas d'odeur. L'important, c'est d'avoir de l'argent et cet argent n'a pas d'odeur. Ceux qui subissent les conséquences de ma décision, c'est les esclaves qui sont obligés de traiter l'urine, c'est les gens qui paient l'urine, mais l'argent, à la fin des fins, n'a pas d'odeur. Et donc, c'est vécu dans la saga fiscale mondiale historique comme étant une sorte d'appel à la diversification, à la capacité à utiliser tout ce qui peut rapporter de l'argent pour essayer d'équilibrer les comptes publics.
Cette chronique appelle beaucoup de réactions en direct de nos auditeurs. Jean-Marc, pardon, je vous coupe, mais parce que par exemple, on a Jean-Jacques qui nous répond « Oui, l'odeur, l'argent a une odeur, il suffit de sentir une liasse de 20 billets ».
Oui, alors on peut effectivement se poser la question des techniques d'imprimerie, puisque
certainement là, pour être détecté par les chiens renifleurs.
Oui, absolument. Les billets ont effectivement une odeur. L'argent électronique a de moins en moins d'odeur. Et l'argent d'autrefois, qui était du métal, avait des odeurs. Le cuivre a une certaine odeur. Et ce qui est important dans le discours de Vespasien, c'est le symbole. C'est le symbole. C'est l'association à quelque chose qui est assez vil et qui est quelque chose qui exprime une sorte de bassesse humaine, même si c'est indispensable d'aller se soulager, et de l'associer à l'action de l'État. Ce qui est intéressant dans la démarche d'ailleurs de Vespasien, c'est que Vespasien associe cette action non seulement à la recette fiscale, mais aussi à des problèmes d'hygiène. C'est-à-dire, en mettant en place des amphores dans les rues de Rome, dans le Rome qu'on est en train de reconstruire, il s'agit effectivement de faire en sorte que les rues de Rome, elles, cessent d'avoir une odeur. Et ensuite...
Oui, on parle d'infrastructure urbaine.
Absolument. Ensuite, Suétone cite aussi un autre empereur qui est Tibère. Et Tibère, donc, c'est le successeur d'Auguste, c'est le prédécesseur de Caligula. Et Tibère a été un des premiers personnages de l'histoire à être confronté à une crise financière. Et donc, le système embryonnaire de la finance fait faillite. L'État renfloue.
On est en quelle année, Jean-Marc ?
On est au tout début de l'ère chrétienne. On est vers au tout début de l'ère chrétienne. Et Tibère va avoir comme réflexion pour remonter les caisses publiques qui ont été associées et qui ont été mobilisées pour compenser le krach des banques romaines. Il dit la bonne politique fiscale, ce n'est pas d'écorcher le mouton, mais c'est de le tondre. Le mouton est tendre. Et c'est un principe qui est un principe, là aussi, qui est assez général. C'est-à-dire, il ne faut jamais aller trop loin, il faut être capable de récupérer de l'argent sur le contribuable, mais pas de tuer le contribuable. Trop d'impôts tue l'impôt.
Tondre le mouton, ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Il y a plein d'expressions autour de l'argent. Tous les mardis, on les décrypte avec vous, Jean-Marc. Bon, l'argent n'a pas d'odeur. Vous nous avez expliqué les origines. On comprend évidemment le symbole. Maintenant, cette expression a un petit peu évolué. Aujourd'hui, on s'en sert un petit peu pour dire que peu importe d'où provient l'argent, même s'il est mal acquis, le principe, c'est d'en avoir.
Absolument, oui. L'argent n'a pas d'odeur à dépasser le simple cadre fiscal. D'abord, sur le plan fiscal, ça a servi à justifier tout un tas d'impôts. Donc, l'histoire de la fiscalité mondiale nourrirait de nombreuses chroniques du mardi, de l'impôt sur la barbe, l'impôt sur le savon, l'impôt sur la nouvelle lune, tout un tas d'impôts ont pu être conçus à un moment donné. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée s'est étendue à l'argent privé. C'est-à-dire que, à la fin des fins, effectivement, ce qui est important, c'est de réussir, tout en restant, malgré tout, dans le cadre légal. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de justifier systématiquement le recours au crime pour gagner de l'argent. Mais une fois qu'on reste dans le cadre légal, le fait de faire de la morale aux gens qui gagnent de l'argent est vécu comme étant totalement déplacé. L'argent n'a pas d'odeur. Vous avez gagné de l'argent, vous avez acquis cet argent de façon efficace, puisque vous avez gagné de l'argent, et vous êtes resté dans le cadre légal, on n'a aucun reproche à vous faire.
L'argent, le salaire a-t-il une odeur ? Non, ce serait un autre débat d'abord. C'est ça.
Alors, on reviendra sur le mot salaire. J'expliquerai d'où vient le mot salaire dans une autre chronique. Il ne faut pas gâcher l'avenir.
Maëlle, qui nous cite quotidiennement, nous dit l'argent a tellement d'odeurs différentes. Bon, reste qu'on utilise beaucoup d'expressions. Il y a l'argent sale et puis il y a blanchir l'argent. Est-ce que ce sont les mêmes origines que l'argent n'a pas d'odeur ?
Non, ce n'est pas la même origine. L'argent sale, effectivement, c'est l'argent du crime. C'est l'argent qui est mal gagné. Et donc, l'argent sale, l'expression apparaît au XVIIIe siècle où on considère que certaines formes de certaines façon de gagner de l'argent et de l'argent malhonnête, de l'argent qui, certes, n'a pas d'odeur, mais qui salit d'une certaine façon celui qu'il a gagné. En particulier, c'est ce qui va faire la différence entre le noble et l'aristocrate d'un côté et le bourgeois de l'autre. Mmh. C'est-à-dire, le bourgeois, il peut gagner de l'argent en faisant certaines choses. L'aristocrate, il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre. Notamment au moment de la spéculation sur autour de John Law, la question qui s'est posée, c'est à l'époque, c'est est-ce que les aristocrates peuvent s'associer à cette opération, qui est une opération dans laquelle il y a des banques, il y a des gens qui sont assez peu recommandables. Et l'argent sale, c'est aussi l'argent qui va être gagné au travers du prêt, de l'usure, de tout un tas d'opérations qui sont des opérations financières où il n'y a pas derrière du travail, puisque normalement l'argent noble, c'est l'argent qui est issu soit du travail pour le bourgeois, soit de la gestion de son domaine patrimonial pour le noble. Et donc blanchir l'argent, c'est faire en sorte qu'il cesse d'être sale, et l'argent sale, c'est celui qui gagne de façon indigne. On déroge quand on gagne de l'argent sale, et maintenant l'argent sale, c'est celui qui est gagné de façon carrément criminel.
Bon, et blanchir l'argent, on revient à cette histoire de teinturerie ?
Non, on revient simplement qu'en face de l'argent, il y a de l'argent sale, et donc la façon de faire en sorte que quelque chose cesse d'être sale, c'est le blanchir, c'est lui donner une nouvelle couleur, c'est effacer la couleur de la saleté qu'il portait. Alors, blanchir de l'argent, au début, c'est plutôt assez positif, puis ça devient assez vite un mensonge. C'est-à-dire, celui qui blanchit l'argent, c'est celui qui cache la réalité d'où vient cet argent.
C'est celui qui enlève toute trace des origines
taches,
de l'argent.
Les taches sur l'argent.
C'est l'anti-blockchain et l'anti-bitcoin.
Oui, je ne sais pas si l'argent sale, l'argent blanchi s'applique aux nouvelles technologies.
Nous en reparlons.
Nous en reparlons.
Jean-Marc, vous nous avez emmené environ 70 ans après le début de notre ère, quand le nouveau souverain Vespasien doit trouver un moyen rapide de renflouer les caisses de l'Empire.
Alors, juste un dernier mot, la trace qu'il a laissée, c'est pas uniquement cette expression, c'est aussi le lieu qui est
les Vespasiennes.
De cette expression, les Vespasiennes en français, comme dans beaucoup de langues, c'est un lieu où on se soulage.
Les Vespasiennes, car oui, c'est un synonyme de toilette pour ceux qui découvraient ce mot avec nous, et tant mieux si on participe à votre vocabulaire. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Si vous aussi, vous avez une idée d'expression ou de mots sur lesquels vous voulez que Jean-Marc travaille, planche et sur lesquels il peut partager sa culture, vous l'avez vu, sans limite sa culture financière et économique, et bien vous nous écrivez, l'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn, vous m'écrivez en direct comme Maëlle et comme Jean-Jacques, et vous venez participer à la fabrication de cette émission. On marquera une rapide publicité, après c'est l'heure de l'actu, et puis après c'est l'heure du point sur les marchés. Vous le suivez peut-être depuis le début de la séance, le CAC 40 et les bourses européennes qui sont dans le rouge là. Alors on se parle, le CAC qui est autour de 7943 points, en baisse de 1,2%. Et puis à suivre, on parlera aussi de la Chine. Est-ce que la Chine est en train de se japoniser? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça aurait des répercussions sur l'économie et jusqu'à nous, investisseurs particuliers? Nous en parlons dans la deuxième partie de Tout pour investir. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui vous aide à devenir meilleur investisseur ou meilleure investisseuse. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web. Et bonjour à vous qui nous écoutez en podcast en dehors de France. L'heure à venir va nous permettre de parler d'immobilier. Nous allons parler d'un monde où le flex office fait rage, où le télétravail s'est imposé plusieurs jours par semaine. Et cette question, est-ce que les équipes ont encore besoin de se retrouver ? On va parler séminaire d'entreprise avec Marie Cœur de Roy et notre invitée. On va se demander si la Chine est en train de se japoniser. Qu'est-ce que ça veut dire, se japoniser ? On vous emmènera dans le Japon des années 90. On filera le parallèle, on verra les limites peut-être de ce parallèle. Et puis on parlera de la Chine. Est-ce qu'elle a touché le fond avec l'indice MSCI China qui est retourné sur ses niveaux d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, on investira thématiquement dans les voitures. Vous savez, un sujet qui m'est cher, mais qui vous plaît aussi. Nous allons parler de deux chevaux. On va parler de mini, autant de modèles populaires qui peuvent devenir des pièces d'exception, des pièces d'investissement, de collection. Mais on parlera aussi de Porsche, notamment de la Porsche 356 C Carrera. avec la maison Agut. Elle date de 1963. Je vois Antoine qui est tout feu tout flamme d'entendre parler de Porsche parce que lui aussi il s'intéresse aux voitures. Au programme, il y a vous, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes connectés et très nombreux à nous écrire. Merci pour votre soutien et de participer à la discussion. Vous continuez direct à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn. Je vous lis, même si vous m'écoutez, nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à réagir et à nous donner des idées de sujets ou à réagir sur le contenu de l'antenne. On part à Euronext. Rejoins Antoine. Antoine, qu'on retrouve à Euronext sur fond de CAC 40 qui a l'air à 11h07 de limiter la casse. La situation semble plutôt stabilisée du côté du CAC.
Ouais, même si on reste en baisse marquée sous les 8000 points, mais on semble s'être trouvé des supports du côté d'une zone du côté des 7920 points. On est à 7953 et depuis on a réduit les pertes. On ne perd plus qu'1,14%. Du côté des autres indices européens, on a du moins 1,3% pour le DAX à Francfort, l'Eurostock 50 moins 1,2%, mais le signe de tension persiste, hein, bien évidemment, avec un indice VIX américain, bon, qui passe légèrement sous les 19 points. Enfin, on en reste quand même pas loin. Niveau de tension relativement élevé. Et au milieu de tout ça, on a en plus les chiffres de la croissance chinoise qui semblent peser sur l'ensemble du compartiment industriel. Alors, la plus forte baisse du CAC 40, c'est ArcelorMittal qui en plus subit un abaissement de recommandation de Deutsche Bank. Le titre perd 5,9% à 24,02€. Mais on a l'ensemble du secteur automobile qui est en baisse aussi, marqué Stellantis moins 2,9, on est à 24,26. Renault moins 2,47 à 48,88€. Univers de taux élevé aussi, ça on va en reparler dans quelques secondes, mais c'est pas très bon pour les valeurs de croissance et en particulier pour les semi-conducteurs. Dans la high-tech, on a STMicro qui recule de 2,5% à 37,87€. Parmi les titres qui résistent mieux, Téléperformance, hein, qui est bien orienté depuis le début de la séance, plus 0,2 à 88,34€. Engie aussi, plus 0,13 à 15,76€. L'Oréal, plus 0,07, 415,75€. Et la plus forte hausse du SBF 120, elle est pour SES, l'opérateur satellite, qui gagne 2,4% à 5,62€. Le CAC, moins 1,7. 7951 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on rebondit un petit peu, mais enfin, on a pas mal testé la zone d'1,06 à 1,0628, très exactement, Lorraine.
Merci Antoine, c'est l'heure de votre histoire, on va parler de taux.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Oui, un mot du marché des taux, du marché de taux, parce que clairement, c'est là où tout se passe et la tension reste très forte. Expliquez-nous, Antoine.
Oui, notamment du côté des États-Unis, car une cote d'alerte commence à se matérialiser, les 5% sur le rendement de la dette américaine. Deux ans, on est à 4,94 là, en ce moment. Le taux à deux ans, c'est quand même celui qui personnifie le plus les dynamiques d'intervention des grandes banques centrales. Et là, pour le coup, il s'agit de la Fed. Donc, ce taux-là est très, très nettement remonté ces derniers jours. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un phénomène de repli sur le marché obligataire pour cause de fortes hausses de la prime de risque géopolitique. Ça, on en parle, ok. Hausse du pétrole aussi, qui est toujours autour des 90 dollars. Il n'y a pas de débordement pour le moment, mais enfin, les dynamiques restent quand même franchement haussières. Et tant que cette tension persiste sur les marchés, on a des perspectives d'inflation induite qui augmentent sensiblement à nouveau. Et avec en plus une réserve fédérale américaine qui, depuis une dizaine de jours, est en train de doucement préparer les esprits à un délai avant une première baisse de taux. Alors, tout ça crée un vrai gros climat de tension et provoque cette correction très sensible sur le marché actions, parce que 5% sur les taux 2 ans, si on regarde ce qui s'est passé dans un passé relativement récent, c'est le niveau qu'il y a eu pendant la crise des banques régionales américaines. Vous vous souvenez, avec la faillite de Silicon Valley Bank, c'était il y a un peu plus d'un an. C'est aussi le niveau qu'avait atteint le taux 2 ans britannique pendant la crise des fonds de pension en septembre 2022. Vous vous souvenez, il y a eu une intervention d'État, on a dû renflouer des caisses et on sentait vraiment le Royaume-Uni au bord de la crise, hein, avec cette histoire. Et c'est aussi le taux qu'avait atteint le 2 ans italien lors de la crise de 2011-2012. Hein, ça remonte à la crise des dettes souveraines en zone euro. Donc, ces 5% sur du rendement de 2 ans, c'est de la dynamite potentielle. Hein. C'est plus qu'une cote d'alerte, c'est un mouvement de défiance, hein, il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, hier, si on regarde regarde bien les échéances plus longues, les taux de 10 ans, ceux qu'on regarde d'habitude, du côté européen, c'était plutôt calme. Hein, et ça s'est nettement tendu dans le sillage de l'Amérique, parce que maintenant, on a largement passé le cap des 4,5%, on est du côté des 4,60. Mais regardez, la dette française 10 ans, elle revient doucement du côté des 3%. Donc là, on a plusieurs signaux très préoccupants qui risquent de perdurer pendant encore un bon moment et qu'il va falloir surveiller de près, d'autant que ça a un effet sur la rémunération des monnaies. On voit que le dollar flambe sur ces nouvelles, pose problème aux monnaies émergentes et en particulier won sud-coréen et le yen japonais, donc que ça provoque des problèmes du côté des marchés émergents. On a un enchaînement de soucis qui pourrait bien nous poser problème sur les prochaines semaines.
Oui, et puis à l'avenir, on ne voit pas bien ce qui pourrait venir entraver la force du dollar, hein, parce que les taux d'intérêt pourraient rester élevés plus longtemps. C'est ce qu'a dit la patronne de la Fed de San Francisco hier. Hein. Elle a réitéré qu'il n'y avait aucune urgence à ajuster les taux d'intérêt. Donc, on en est là. Merci Antoine pour ce décryptage histoire financière à retrouver sur notre site web et application BFM Business. D'ici quelques minutes, le point sur les taux, vous le voyez, les taux, la tension reste forte, c'est là où tout se passe. Nous avons fait le point sur l'actu, nous avons fait le point sur les marchés. Maintenant, il est temps de parler immobilier dans Tout pour investir. Marie Cœur de Roy nous a rejoint.
Tout pour investir, la place de l'immo.
C'est l'heure de l'immobilier avec Marie Cœur de Roy. Bonjour chère Marie.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Nous lançons une saison avec vous aujourd'hui. La saison des séminaires d'entreprise, car oui, il y a une saisonnalité.
Exactement, et donc on s'adresse à tous nos dirigeants à BFM. Si vous voulez nous lancer sur un séminaire d'entreprise, on a vraiment l'interlocutrice, Sophie Desmazières, cofondatrice d'Omani. D'abord, on va rappeler ce que c'est qu'Omani.
Oui, bonjour. Donc, on a fondé Omani il y a 3 ans. Omani, c'est la collection des plus belles maisons à louer en France. Ce sont des grandes maisons. Ce sont des grandes maisons qui viennent avec du service. Et nos clients, nous avons plusieurs types de clients. 40% de notre activité, ce sont des séminaires d'entreprise, puisque nous privatisons nos maisons en Ile-de-France, dans le sud de la France, et aussi quelques-unes en Espagne, pour des séminaires sur mesure, pour des groupes jusqu'à 30 à 40 personnes, puisque le choix d'Omani, c'est de rassembler des maisons de grande taille qui peuvent accueillir des groupes et qui ont entre les plus petits devront avoir 6 à 7 chambres, jusqu'en dans certains cas des hameaux de maisons où nous avons 25 chambres.
Mais Sophie, ce qui est assez chouette, c'est quand vous avez créé cette boîte, vous avez d'abord pensé aux touristes un peu haut de gamme.
Ouais.
Et c'est après qu'est venue finalement cette demande des entreprises. Et pourtant, ça fait quoi, 2021, c'est ça la création d'Omani?
Oui, exactement. Vous avez raison.
Très vite, c'est venu comme ça, les entreprises et les séminaires.
Voilà, on s'est dit qu'il manquait en France une marque qui rassemble toutes les plus belles maisons à louer. Il y a plein de plateformes, il y a plein de... Mais d'être capable de faire la part des choses et de n'avoir que de l'exceptionnel, c'était ce que nous voulions faire avec Omani. Et vous avez plusieurs types de clients. Et au début, on s'est dit, on va surtout avoir des clients étrangers qui vont louer ces très belles maisons qui viennent avec du service. Et très vite, on s'est aperçu qu'il y avait une demande, donc des entreprises. Et vous le rappeliez tout à l'heure, il y avait vraiment une saison du séminaire d'entreprise, plutôt avril, mai, juin. Et ça recommence septembre, octobre. Et c'est un grand intérêt pour le propriétaire parce que ça lui permet de remplir ce qu'on appelle les ailes de saison, puisque ces maisons-là sont très occupées par
l'été,
par des touristes, dans notre cas souvent américains, et l'hiver, les entreprises. Et la particularité d'Omani, c'est que, d'abord, on adore les séminaires d'entreprise, et on est très convaincus. On a fait donc cet observatoire aujourd'hui, on a interrogé 500 salariés pour comprendre en fait l'intérêt et l'utilité des séminaires d'entreprise. Et la formule que nous avons créée, c'est-à-dire des séminaires très intimistes dans ces maisons privatisées, elle est vraiment forte et elle apporte à ceux qui y participent une expérience qui est assez mémorable, puisqu'ils ont la possibilité de rentrer dans des maisons que souvent ils ne pourraient jamais s'offrir.
Bien sûr.
Avec un programme qu'on essaie de faire sur mesure, puisqu'on crée des activités et puis
des services.
Mais Sophie, qu'on comprenne bien votre business model. En fait, vous louez des maisons qui sont par ailleurs des maisons occupées par leurs propriétaires ou qui font ce qu'ils veulent avec leur maison en dehors des moments où ils vous la louent. Et vous apportez un service autour. Quelle est la nature de ce service? C'est de l'événementiel, c'est de la restauration, c'est la conciergerie. Qu'est-ce que vous apportez autour?
Ce que nous apportons pour les séminaires, c'est une formule totalement clé en main. Nous proposons les plus beaux lieux et nous avons choisi ces plus beaux lieux.
Exemple de lieu.
sur place. Alors, exemple de lieu, donc en Île-de-France, nous avons quelques très très beaux châteaux dans l'Essonne. Nous avons sur le bord de la mer, sur le site Omani, hein, vous verrez tout ça. En bord de mer, on a des maisons qui accueillent jusqu'à, je vous disais, 45 personnes. On a des domaines privés en Drôme provençal, par exemple. Ce sont à chaque fois des lieux qui combinent la capacité d'accueil, une capacité d'accueil importante, et qui combinent la possibilité sur place de faire plein de choses. Donc, on les a choisis pour ça. Et notre métier à nous, c'est une prestation complète, c'est-à-dire...
Vous avez un chef, par exemple ?
On a systématiquement, donc on propose les plus beaux lieux, faciles d'accès, super important maintenant. On n'a plus envie, quand on fait du séminaire...
Alors, je ne sais pas quelle est votre définition de facile d'accès, parce que la Drôme provençale, c'est tout, n'est pas collé à Valence ou à Avignon. Quoi.
Mais c'est, je vous rappelle que Valence TGV, c'est 2 heures de
c'est
train.
Vrai, de Paris.
C'est très rapide, donc c'est très rapide. Donc on est très sensible au fait qu'on puisse venir en train. On est très sensible au fait que ce soit facile d'accès à Paris. Mmh. Autrefois, vous savez, on allait très souvent à l'étranger. Hein. On allait au Maroc, etc. Avec cette nouvelle vague, et on est tous conscients de ça... On essaie de réduire en fait notre empreinte carbone et réduire ces temps de transport. On est très sensible au fait que nos lieux soient faciles d'accès. Nous avons beaucoup de lieux près de Marseille en fait. Marseille, 3 heures de train, formidable. À Cassis, on a un lieu magnifique. Donc on choisit des lieux exceptionnels. Nous avons une collection qui est serrée, mais ce sont des lieux qui sont parfaitement organisés pour faire un séminaire sur mesure et intime, puisque nous avons systématiquement un chef au service du groupe, des groupes jusqu'à 30.
C'est bon, moi je suis convaincue.
Voilà, on essaie de faire en sorte que sur place, il y ait des activités. On n'a pas besoin de se déplacer. Ça, c'est très important. Encore une fois, c'est nos engagements RSE.
Tout est là sur place. Ouais.
Mais c'est un des piliers de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir du tout en main sur place. Donc, par exemple, dans la Drôme, on va aller chasser la truffe, on va aller faire des randos, on va faire le cours de pilates sur place qui vient dans la maison. On va faire des ateliers de cuisine. Donc, on a créé à chaque fois des écosystèmes et on organise tout. C'est-à-dire que pour l'entreprise, on fait tout.
Alors, on en revient quelque part à la question à la base de tout ça, c'est qu'est-ce que c'est qu'un séminaire d'entreprise ? En fait, pourquoi on irait se mettre dans une maison isolée mais connectée ? Vous nous l'avez souligné, chère Sophie, entre collègues, pourquoi ? 1, 2 jours ? Qu'est-ce qu'on fait pendant ces séminaires et qu'est-ce que vous, au fil des années, vous avez observé comme activité qui fait que si on fait l'effort et si on paye pour un séminaire d'entreprise, derrière, eh bien, en tant que manager, en tant qu'entreprise, on s'y retrouve.
Le séminaire d'entreprise, c'est un outil de management qui est très puissant, puisque le séminaire d'entreprise, et c'est ce que dit notre observatoire, et nous, on l'observe tous les jours, ça permet de créer la cohésion d'équipe. Cette cohésion d'équipe et de créer ensemble une histoire commune. Ces équipes, on peut le rappeler, qui avec le télétravail, et dans certains cas, nous avons des entreprises dont les salariés ne se voient plus, et nous avons des entreprises qui, chez Omani, font des séminaires tous les 3 mois. Oh. Tous les 3 mois, parce que...
Marie, vous voulez partir chercher la... Ah bah, franchement, moi, avec un chef, dans des lieux prestigieux...
Et clairement, il y a la cohésion d'équipe, énorme. Il y a
On peut ramener les enfants, Sophie, ou pas du
coup. Ah non. Il y a la pause dans un temps professionnel où on est tous focussés sur ces sujets. Là, ensemble, il n'y a pas un séminaire où il n'y a pas une décision stratégique forte. Moi, chef d'entreprise, j'ai souvent été à un moment dubitatif en me disant « Oh, mais les séminaires d'entreprise, c'est de l'enfantillage, c'est du gadget. » Je peux vous assurer que ces séminaires d'entreprise sont fondateurs, sont essentiels. Et d'en faire 1, 2 par an, c'est nécessaire au fonctionnement des entreprises à succès. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que l'intelligence collective dans les boîtes, c'est essentiel. L'intelligence collective, c'est bien travailler ensemble, c'est bien communiquer. Et le séminaire d'entreprise est d'autant plus important aujourd'hui par rapport à il y a quelques années. Et il y a un chiffre que je peux vous donner qui m'a scotché, que je ne connaissais pas. Il y a un observatoire qui a été fait il y a peu de temps sur les dépenses des entreprises dans les événements, donc c'est-à-dire les soirées d'entreprise, les journées d'études et ce qu'on appelle les séminaires résidentiels. De ces 3 type d'événement, il n'y en a qu'un qui est en croissance forte, c'est le séminaire résidentiel.
Mais justement, Sophie,
plus 30% depuis 3 ans.
C'est justement la question que j'ai... Enfin, on en a parlé un peu hors antenne, mais est-ce que vraiment... Je comprends bien l'opportunité à l'heure du télétravail, de la réduction de la surface des bureaux. Vous vous y connaissez en bureau, Sophie, je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs depuis un paquet d'années qui nous regardent, vous veniez au titre de bureaux locaux que vous aviez créé. Du coup, moi, ma question, c'est... J'entends bien l'opportunité pour les boîtes de créer et de participer sur ces séminaires d'entreprise, etc. Mais est-ce que financièrement, malgré le fait que ça puisse effectivement donner lieu à des décisions stratégiques, est-ce que vous avez tant de boîtes que ça, tant d'entreprises que ça, qui aujourd'hui... On n'est peut-être pas dans la meilleure des des périodes pour elles, ont envie de faire ça. Est-ce que c'est pas réservé qu'à une catégorie d'entreprises?
Alors, c'est une question intéressante et moi, je peux vous répondre. Omani, qui sont les clients d'Omani? Omani, encore une fois, ce sont des séminaires très qualitatifs. Donc, certains nous disent, mais Omani, c'est que des boîtes du CAC 40. Eh ben, je vous réponds que non. Les boîtes du CAC 40, c'est une toute petite portion des clients d'Omani. On en a, bien sûr. Mais nous avons énormément de boîtes qui sont très impliquées dans le bien-être de leurs salariés. Et aujourd'hui, qui sont très impliqués dans ce travail collectif. Donc, beaucoup de start-up, des start-up en croissance, des boîtes, bien sûr, qui gagnent leur vie. Je ne veux pas vous dire qu'une boîte qui n'est pas rentable va s'offrir des séminaires. Également parce que cette nouvelle organisation du travail a réorganisé le fonctionnement des bureaux. C'est-à-dire que les bureaux, aujourd'hui, des entreprises, il y a de moins en moins la possibilité, et certaines jeunes boîtes ont même pris le parti d'avoir des bureaux. On ne peut plus venir ensemble en même temps. On ne peut plus. C'est simple. Donc, du coup, quand est-ce qu'on se voit tous ensemble? Donc, ces séminaires d'entreprise sont devenus nécessaires plus que jamais. Et ils prennent, pour une part, et j'étais la première étonnée de la croissance de ce secteur, je le rappelle, 30% les séminaires résidentiels depuis quelques années. Parce qu'en clair, il y a eu une diminution de l'investissement et en particulier...
C'est-à-dire ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont économisé sur leur investissement immobilier, ils le dépensent ailleurs.
Vous savez, on donne le chiffre de à peu près moins 30% de la surface, c'est peut-être un peu moins que ça, mais c'est à peu près ça. Clairement, aujourd'hui, pour faire groupe, pour faire cohésion, pour faire l'histoire commune, autrefois, je me voyais autour de la machine café, je discutais à la cantine, sauf que maintenant, il y a des collaborateurs que je ne vois plus. Donc, les séminaires d'entreprise servent à ça.
Sophie, vous nous parlez des boîtes qui gagnent leur vie. Alors, on comprend les entreprises qui ont un budget pour pouvoir faire ce genre d'événement. Marie, vous identifiez que peut-être c'est on a réduit son budget location, son budget bureau au sens le loyer qu'on paye ou l'emprunt que l'entreprise peut avoir à rembourser si elle est propriétaire de ses bureaux. Et ce budget excédentaire ou économisé, on va dire, on l'envoie vers de l'événementiel. Et finalement, pour les entreprises, financièrement, elle s'y retrouve. C'est pas une dépense en plus.
Non, je pense que l'allocation budgétaire, effectivement, s'est déplacée. C'est déplacé. Ce que je vous le disais, quand on regarde les événements d'entreprise, soirées, grandes soirées et journées d'études, ce sont deux postes qui ont baissé. Ce qui augmente, c'est le séminaire résidentiel. Et c'est le séminaire résidentiel en petite équipe. Ça, c'est vraiment important. C'est le petit groupe, donc 20 à 30 personnes, qui a besoin de se retrouver, travailler ensemble, hors les murs, pour être plus efficace demain.
Marie est aux manettes de l'organisation du prochain séminaire de BFM Business / Tout pour investir. Vous nous emmenez avec Omani quelque part. Quel est le budget qu'on doit envisager?
C'est la question, il ne faut pas me le poser à moi, parce que moi, je dépense toute la boîte. Moi, la boîte coule à cause de moi. Parce que alors là, on ne part pas deux jours, mais trois mois.
Alors, avez-vous vraiment envie de partir trois mois en vacances avec vos collègues, au séminaire d'entreprise?
Alors, j'irai seule.
Alors, le séminaire d'entreprise, évidemment, cela dépend de la distance, donc du lieu que vous allez vous offrir. Mais les lieux Omani qui sont, encore une fois, très, très, très haut de gamme.
On a parlé de Château en Essonne, de Domaine en Drôme.
Voilà, vous allez dépenser entre 400 à 700 euros par personne et par jour. Mais cela va dépendre aussi de la taille de votre groupe. Si vous allez faire un séminaire à la montagne, on fait, nous, des séminaires à la montagne, parfois c'est un petit comité de direction, 10 personnes, un lieu très grand, très magnifique, vous allez être dans le haut du panier de la tranche que je vous ai donnée. Mais 400 euros par jour, par personne, un groupe de 15 à 20 personnes, pendant deux jours, c'est tout à fait abordable et en général, inférieur au prix que les gens imaginent.
Juste un dernier mot, Sophie, sur un autre. Enfin voilà, il y a cette volonté effectivement de cohésion des équipes, mais il y a aussi quelque chose dont on parlait aussi hors antenne sur la conquête des talents, la rétention et la conquête des talents. C'est aussi devenu un argument. Je vous disais tout à l'heure, vous ne disiez pas complètement, mais quand même, est-ce qu'aujourd'hui le fait qu'il y ait moins de bureaux, finalement, on avait fait toute l'époque je recite le baby-foot, mais de mon bureau, il est super génial, on peut faire plein de trucs et tout. Bon, maintenant, on sait qu'on réduit les surfaces. Donc, est-ce que c'est pas le nouvel argument? Ce séminaire-là, est-ce que je peux l'afficher presque sur mon offre d'emploi, en fait?
Je suis complètement d'accord. La reconnaissance employeur passe par, en particulier, ces moments rares, puisque le séminaire, il vaut mieux en faire un rares, avec des expériences mémorables, plutôt que faire 2-3 moments où vous vous retrouvez dans un cadre un peu moins agréable. Et les salariés sont très reconnaissants. C'est une marque de reconnaissance qui est très forte. Vous êtes invité dans une maison Omani, vous dites waouh, je suis quelqu'un. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. Et encore une fois, cette maison comme lieu de vie et lieu de séminaire, c'est tout autre chose qu'un hôtel, parce que c'est rien que pour vous, c'est rien que pour l'équipe, c'est rien que pour l'entreprise. Et la privatisation du lieu fait beaucoup dans le succès de ce que nous vivons tous les jours.
Sophie-Marie, on va quand même conclure du point de vue des personnes à qui vous louez ces maisons.
Ouais.
Je suis propriétaire de cette magnifique villa, probablement quoi, en Drôme provençal derrière nous, avec cette piscine non chauffée parce qu'il fait tout le temps chaud, et cet éclairage magnifique de la lumière du soleil. Quel est mon incentive, quelle est ma motivation pour aller vous confier les clés de ma maison? Vous l'avez dit, sur les ailes de saison, donc en dehors des vacances scolaires et on va dire de la période estivale où j'aurais envie d'y aller, quelle est la rentabilité et quels sont les risques?
Alors, le taux d'occupation, quand vous avez de l'immobilier, c'est un KPI essentiel. Donc, l'occupation d'une maison, la plupart des maisons que vous voyez appartiennent souvent à des entrepreneurs qui, à côté de leur activité, ont acheté ces maisons, mais ces maisons-là, elles sont opérées professionnellement. Donc, la motivation à les louer en séminaire, elle est très forte parce que ça remplit les ailes de saison et sinon, vous n'auriez pas de clients. Donc, quand vous avez un lieu à louer, c'est une chance folle de pouvoir faire des séminaires d'entreprise. Il y a des contraintes. Dans les contraintes, vous avez la capacité d'accueil. Et nous, on est très exigeants. J'en ai pas parlé chez Omani parce que souvent, quand je parle d'Omani, il faut que vous sachiez qu'on a énormément de propositions de maisons. Nous en prenons un nombre très, très, très réduit parce que notre cahier des charges est très contraint, parce qu'on ne veut que des lieux exceptionnels, grande capacité d'accueil, des environnements exceptionnels et la possibilité d'avoir beaucoup d'espace pour rester sur place.
Et faire du séminaire, ça coûte plus cher que de louer à des touristes ou pas, du coup, pour les propriétaires?
Ou d'organiser des mariages.
Alors, parce que j'imagine que c'est un peu ça.
Vous avez raison, faire du séminaire, ça rapporte moins. Ça rapporte moins que faire de la location saisonnière parce que y a plus de boulot, parce que c'est des temps plus courts, c'est très simple, c'est 2-3 jours, alors que quand je loue 15 jours à une famille américaine, c'est moins de boulot, etc. Sauf que la famille américaine, je ne vais pas la voir en février, en avril,
ou en octobre. C'est ça, le sujet, c'est le remplissage.
Le sujet, c'est le remplissage, et le sujet, c'est la multiplicité des usages donc pour optimiser le taux d'occupation. Et l'entreprise, qui est formidable avec les entreprises, c'est que, en revanche, c'est une population très respectueuse. Vous n'avez pas, quand vous êtes dans un cadre professionnel, c'est très rare qu'il y ait des dommages. Parce que, les gens travaillent, etc. Ça peut arriver, bien sûr, quand une maison est louée, que des enfants fassent crayonne sur.
C'est pour ça que je ne peux pas ramener mes enfants, c'est
voilà.
Ça, Sophie.
Donc, si dans un cadre professionnel, il y a très rarement des dommages, parce qu'il y a un grand respect de la propriété. Mais on a besoin pour ça d'avoir des lieux qui ont des grandes capacités, et on a, nous, assez souvent, des ensembles de maisons. Vous voyez, si on a 15 chambres, 15 à 20 chambres, c'est ce que nous cherchons.
Merci beaucoup Sophie Demazière, cofondatrice d'Omani. Merci Marie de nous avoir emmenés un petit peu en dehors du cadre de nos bureaux pour réfléchir.
C'était notre séminaire à nous, c'était bref mais intense.
Voilà, cette réflexion sur le séminaire d'entreprise dans un monde où le flex-office et où le télétravail, du moins dans le tertiaire, sont devenus la norme. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site web. Merci beaucoup pour cette aération. Nous allons vous emmener du côté de la Chine avec Gilles Echeribarri pour réfléchir aux conséquences de la dégradation de la note la semaine passée, et puis aussi les chiffres du PIB. Qu'est-ce qu'ils signifient pour nous, investisseurs particuliers du côté de la France? À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir et mieux comprendre le marché chinois. Nous allons décrypter les chiffres du PIB et les conséquences de la dégradation de la note de la Chine la semaine dernière par Fitch. Avec vous, Gilles Echeribarri. Bonjour.
Bonjour.
Gilles, vous êtes le directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Avec nous au décryptage, parce que ça nous concerne en tant qu'investisseurs particuliers, ce qui se passe en Chine. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus et qui nous écoutent et qui se disent « Oh là là, moi la Chine, je ne mettrai pas un euro dessus », parlez-nous un peu de pourquoi ça nous concerne.
Je dirais déjà en termes de poids, il y a une émergence puisque la Chine c'est 20% du PIB mondial, c'est un marché qui représente le quart des marchés émergents. Et si on ajoute la Corée et Taïwan qui sont autour, ce parti-là c'est une partie non négligeable des marchés émergents qui aujourd'hui pèsent pratiquement plus que le Japon et pratiquement autant que l'Europe.
justement cette part du PIB mondial. La Chine a publié ce matin son PIB en progression de presque de 5,3% au premier trimestre. Un signe encourageant quand on est décideur politique chinois. Quand on est les marchés et qu'on regarde ce chiffre, qu'est-ce qu'on se dit ?
Bah, c'est un chiffre qui est, je veux dire, c'était le minimum syndical. Puisque c'était ce qui avait été annoncé, donc en Chine, généralement, ce qui est annoncé est plus ou moins respecté. Après, le chiffre n'est pas de très bonne qualité, puisqu'on avait un rebond assez significatif en janvier-février, et là, on voit un essoufflement et la production industrielle et la consommation, ce qui n'est pas un très bon signe pour la suite des événements. La Chine devrait faire 5%, mais comme je le dis, c'est le minimum syndical et beaucoup, à base beaucoup d'investissements publics, pas forcément très productifs.
Ouais. Il s'agit d'un bon chiffre, sauf que quand on le décortique, on voit qu'il a été porté par une croissance assez soutenue au moment du nouvel an chinois, qui visuellement à cheval entre janvier et février, et qu'après, effectivement, sur la fin du trimestre, ça se ralentit un petit peu. Bon, on est obligé de parler de la décision de Fitch, la semaine dernière, de baisser, de dégrader la note de la Chine. Ça, côté politique chinois, on n'a pas trop aimé. Comment on lit ce chiffre, comment on lit cette dégradation quand on est investisseur, quand on est investisseur particulier ?
Si on voit Fitch, il y a un problème dans le modèle chinois, hein, c'est clair. Je veux dire, le modèle chinois est cassé économiquement, cassé démographiquement, probablement aussi politiquement, puisque on a quand même eu des soucis sur certains secteurs en bourse. Et donc effectivement, Fitch reflète ça dans la dégradation, puisque vous avez une Chine un peu à deux vitesses, avec des provinces qui continuent à se porter assez bien en Shanghai, sur la bande côtière, et tout l'intérieur de la Chine qui s'ouvre de plus en plus, avec un intérieur du pays qui se vide progressivement, des dettes qui s'accumulent. Et c'est ça que reflète Fitch.
L'agence Fitch qui a abaissé à négative la perspective de crédit de Chine. Vous le dites, un des sous-jacents de l'économie chinoise, c'est l'immobilier. L'immobilier qui inquiète parce que régulièrement traité à la une des médias économiques, on a beaucoup parlé d'Evergrande. Qu'est-ce qu'il faut retenir là, mi-avril, de la situation de l'immobilier en Chine ?
La situation, je veux dire, la bulle a enfin explosé et je dirais qu'elle n'est pas bonne. Et elle est en plus aggravée par le fait d'une chose qui commence à arriver malgré les statistiques, c'est que les perspectives démographiques chinoises sont très mauvaises. En 2023, pour la première fois, avec 5-6 ans d'avance, l'Inde a dépassé la Chine. On a peut-être perdu la population en 2023-2024. Donc aujourd'hui, je crois qu'un officiel officieux chinois disait qu'ils avaient construit plus de maisons que de Chinois, que de nécessaire. Donc, quelque part, la bulle immobilière qui a été un peu la sauce secrète de la croissance chinoise pendant les 10 dernières années, est derrière nous et va pas revenir. Alors on peut avoir toujours des choses du côté de Shanghai et tout ça où les gens s'accumulent, mais en tout cas à l'échelle du pays, c'est quelque chose qui est derrière nous et qui va pas redémarrer.
On a construit plus de maisons qu'il n'y a de Chinois.
Ou qu'il y aura Chinois. La population chinoise, ça perdra 100 millions d'habitants d'ici 2050 normalement.
Bon, le mot l'immobilier, il y a aussi évidemment le chômage des jeunes qui pèse. Finalement, quand on voit quand on parle de la Chine, on a l'impression que le monde politique a envie de régler les problèmes économiques, mais avec des mesures politiques. Et on le voit bien que ça marche moyennement.
Oui. Enfin, je dirais que surtout avec des mesures à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de ne pas changer le modèle qui aujourd'hui touche fini dans un mur. Je veux dire, la Chine, c'est 20% du PNB mondial, c'est 32% de la production industrielle et 13% de la consommation. Il y a vraiment un écart entre ce qu'ils produisent et ce qu'ils consomment, ce qui est le nœud du problème. Et aujourd'hui, la direction chinoise ne veut pas essayer de corriger ça en augmentant la consommation des ménages, mais veut juste simplement changer d'endroit où ils investissent. Avant, c'était donc l'immobilier, après maintenant, c'est le public. Et là, ils veulent même continuer à accroître leur présence industrielle, ce qui ne sera pas possible puisque les autres pays ne vont pas laisser faire.
Le problème de la Chine, c'est que les gens économisent trop. Ils économisent trop. L'immobilier cristallise un peu cette volonté d'économiser. Finalement, on préfère investir sur quelque chose qui va rester plutôt que dans de la consommation. Ce qui manque à la Chine, c'est pas finalement un filet de sécurité sociale.
Si, mais pour citer les révolutionnaires américains, no taxation without public representation. C'est-à-dire qu'augmenter le filet social, c'est aussi augmenter les impôts, c'est aussi prendre le risque de la démocratisation de la Chinoise. Et c'est ça qu'essaie d'éviter Xi Jinping. Et c'est là où le modèle, effectivement, est aussi cassé politiquement. C'est que quand on voit que la parti peut anéantir des secteurs entiers en bourse, comme l'éducation, techno, pour des raisons politiques. Enfin, voilà, on est un peu coincé là-dessus. Donc, c'est ça aussi la clé. Mais effectivement, la Chine pourrait s'en sortir en accroissant les filets de sécurité et en augmentant la consommation des ménages. Parce que c'est pas un choix des ménages. Hein. Les ménages sont contraints. Et tout le modèle chinois, c'était de contraindre les ménages pour investir et exporter. Et c'est là où on arrive à la fin de ce modèle.
La difficulté de mettre en place un modèle de consommation dirigé par le consommateur, pour le dire en mauvais franglais, ça nous amène à un parallèle avec le Japon. On lit ça et là des analyses qui disent que la Chine serait en train de se japoniser. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de perspective historique quand on dit japonisation? C'est une comparaison avec le Japon des années 90.
Oui, avec un sommet de boursier qui a été battu ce trimestre, hein, avec pas le même monnaie, mais qui a mis quasiment 40 ans à être battu. Oui, c'est un modèle d'exploitation, donc de contraindre la consommation intérieure, qui après permet de développer des exportations, mais qui se heurte à un moment à une nécessité de rééquilibrer. Donc les Japonais en 90 avaient des accords du Plaza et du Louvre, on avait forcé à monter le yen, et donc on avait effectivement stimulé la consommation intérieure japonaise, qui avait fini dans une bulle immobilière énorme. Et derrière, on a une longue période d'hiver japonais. Sachant deux choses, c'est que il y a aussi un problème démographique, hein. Il y a un parallèle démographique, puisque le Japon a vu sa population commencer à diminuer depuis les années 2000-2010. La seule différence, je dirais, aujourd'hui, et qui rend la Chine un peu plus dangereuse là-dessus, c'est que le Parti libéral-démocrate, qui était au pouvoir au Japon dans la période, c'était pas un paragon de démocratie, mais c'est reste respecter les élections. Et donc, il n'y a pas cette capacité, au nom de la sécurité nationale, à anéantir, comme je disais tout à l'heure, des secteurs entiers en bourse. Donc, je dirais, la japonisation chinoise est quelque part un peu plus dangereuse de ce point de vue-là, puisqu'il y a en plus un risque politique qu'il n'y avait pas vraiment au Japon.
La différence aussi, elle se voit au niveau du potentiel d'urbanisation et de développement, parce que la Chine des années 2020 est quand même moins développée, enfin bien moins développée que le Japon des années 90.
Alors,
il y en a plus sous la pédale en Chine, je veux dire, en termes de développement, peut-être.
Quand on va à Shanghai, alors j'ai pas eu l'occasion d'y aller dernièrement, mais quand on va à Shanghai ou Canton, ce qu'on peut voir, c'est que les voitures électriques, enfin, on a quand même sur les métropoles, je dirais, de la côte, un niveau de richesse. On est à peu près à $25,000 par habitant, hein, sur cet endroit-là, qui est le seuil de démocratisation. Je veux dire, on est sur des niveaux de richesse qui sont.
Mais tout le reste du territoire.
Tout le reste
des
du villes, territoire.
Tiers 3, est, tiers
quasiment,
4.
Voilà, est abandonné. Et aujourd'hui, ce que vous parlez de Fitch, c'est ce qu'on fait de Fitch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une dichotomie de plus en plus grande entre une bande côtière qui a des niveaux de $25,000 de PNB par habitant, un pays qui a 12 000 et donc le reste qui est autour de 8-10 000.
Il y a aussi le sujet une japonisation de la Chine. Si elle s'avérait, si elle se réalisait, quelles seraient les conséquences pour nous côté européen? Vous observez, peut-être dans votre clientèle très simplement, un intérêt pour la Chine en ce moment? On dit que c'est pas cher d'acheter la Chine.
Alors, je veux dire, c'est un peu l'inverse. On avait une vision négative du marché chinois, hein, très très clairement, jusqu'à un mois à peu près, puisqu'il y a un mois, on était revenu 15 ans en arrière, ce qui montre d'ailleurs qu'on parle de PNB, de croissance, mais on
voit
que...
Oui, puisque le MSCI China est à ces niveaux d'il y a 15 ans.
Voilà, donc on voit bien qu'il y a un décalage entre la croissance économique, on parle de le PNB, et parce que le PNB chinois est quand même beaucoup plus élevé qu'il y a 15 ans, et la valeur boursière. Donc nous, on était pour négatif pour toute cette vision d'un modèle de cassé et d'un risque politique. En revanche, quand on revient 15 ans en arrière, on peut estimer qu'on a touché un peu, si vous me permettez l'expression, le fond de la piscine. Mmh. Et donc nous, on a investi un peu à contre-courant, donc on a acheté des actions chinoises il y a un mois. On est légèrement gagnant, je trouve que c'est un peu poussif, on se pose la question de savoir si on va conserver la position. Par contre, je rencontre pas mal de gens, effectivement, qui post-Covid avaient acheté la Chine en espérant un rebond, qui a eu lieu au début, mais qui s'est vite effacé, qui maintenant donc sont au plus bas. Donc, et si on fait un parallèle avec le Japon...
Justement, est-ce que le marché action chinois est comparable au marché action japonais?
Pour nous, il est un peu comparable, on a les mêmes dynamiques, les mêmes problématiques. Le Nikkei a perdu... trois quarts de sa valeur entre 89 et 90, et après a eu des rebonds de 30%. Et quelque part, c'est ce qu'on peut jouer à techniquement. C'est un rebond. Si on gagne 10-20% sur la Chine, on sera très content, mais on ne restera pas à moyen terme, on restera pas sur le marché à long terme.
Donc votre recommandation chez Elkano, c'est la Chine, mais à court terme.
À court terme, si on a acheté donc il y a un mois, après, si ça rebondit un peu, oui, plutôt de sortir du marché, oui. Clairement, on est sur un marché qui a des problèmes structurels dont on ne voit pas la résolution à court terme. Et après, on a un peu, là, on voit la devise qui commence à lâcher un peu. Bon, il est possible que... De toute façon, la volonté de faire du tout export sur les voitures électriques, tout ça, va se heurter aux résistances mondiales. Donc, ça va être un modèle qui va à un moment tourner à vide.
Et oui, parce qu'une des solutions pour la Chine, ce serait d'exporter plus. Mais exporter quoi et à qui?
Voilà, surtout à qui? Quoi, ils savent, hein, c'est les voitures électriques, les panneaux solaires, tout ça, ils ont listé. Mais c'est surtout à qui? Parce que les gens sont pas, même le Brésil fait du anti-dumping, la Turquie, enfin, les Américains. Les deux candidats ont annoncé qu'ils voulaient interdire américains ou les voitures japonaises, chinoises, au moins 10 000 dollars électriques. Enfin, voilà, et même l'Europe s'y met aujourd'hui sur les panneaux solaires. Donc, clairement, il y a ce modèle. A du mal à trouver un débouché.
Voilà, ce décryptage qu'on pouvait faire de la Chine avec vous, Gilles Etcheberry-Garay, de l'équipe Elcano AM. Et puis peut-être un chiffre pour finir, hein, la Apple qui assemble aujourd'hui un iPhone sur 7 en Inde. Un iPhone sur 7 qui
est l'Inde est en train de monter, hein, clairement. Alors, nous, on a fait un trade qui était un peu opposé parce que l'Inde était devenue assez chère et la Chine pas chère. Mais globalement, à moyen terme, oui, aujourd'hui, l'Inde, c'est 17% des marchés émergents de MSCI Emerging. On a plutôt une tendance à voir, je rappellerai que le Japon représentait 50% du MSCI World en 1989. On voit plutôt la part de la Chine régresser à moyen terme et la part de l'Inde augmenter à moyen terme. Et d'autres marchés.
Voilà, ce qu'on pouvait dire mi-avril. Vous reviendrez nous voir, Gilles. On continuera à filer ces parallèles, à décrypter l'Asie et les différents pays du monde qui ont un impact ultimement sur nous, investisseurs particuliers, ici, en France. Merci à toute l'équipe d'Elcano Asset Management. Cette séquence à retrouver en podcast et en replay si vous l'avez attrapé en cours de route. La comparaison avec le Japon des années 90 et puis les conséquences de la dégradation de la note de crédit par Fitch la semaine dernière et bien sûr ce PIB chinois. Que signifie-t-il? Pour rester avec nous, on va tout à fait changer de sujet pour finir l'émission. Quoique, on va continuer à parler investissement. On va parler voiture et pas de Tesla. On va parler de deux chevaux. On va parler de Mini et puis on va parler aussi de Porsche avec la maison Aigüite. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Il vient de jeter un prototype sur le bureau du studio de BFM Business, c'est Gauthier Rossignol. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes associé directeur automobile de collection chez Aigüite. Oui, vous venez presque de jeter un magnifique objet que vous allez nous décrire pour ceux qui nous écoutent à la radio et la télé.
Pas du tout pourquoi vous dites ça, mais
de manière très spontanée, vous êtes venu avec un prototype. Je pense que c'est la première fois que je vois un prototype, donc je suis un petit peu sans voix. Décrivez-nous.
En fait, c'est le prototype de la maquette de la Porsche 904. Donc, on va dire que c'est le premier prototype. On va dire aussi que c'est la première grande GT chez Porsche. Ensuite, c'est la série des 900. Donc, c'est les caisses en fibre. Et en fait, dans les années 60, il n'y avait pas de soufflerie comme aujourd'hui. Il y en a chez Tesla, il y en a chez Stellantis, il y en a partout. Mais à l'époque, dans les années 60, en fait, on faisait des maquettes. Il y avait des ingénieurs qui faisaient ça, qui réalisaient la carrosserie au plus proche de ce qu'allait être la vraie voiture. Et comme ça, ils arrivaient à voir si déjà les lignes plaisaient, si c'était concordant avec l'idée qu'en avaient les ingénieurs. Et puis ensuite, il en sait en production. Donc, il y en a une petite dizaine de réalisés. Beaucoup sont partis à la casse, beaucoup sont rejetés chez Porsche. Et puis, il y en a une ou deux qui sont arrivés dans des mains privées, certainement chez des très grands collectionneurs. En tout cas, pour celle-ci, c'est le cas. Et on la présentera aux enchères le 22 avril prochain, au départ du Tour Auto.
Voilà, une maquette de la Porsche 904. Parce qu'avec vous, nous parlons de voitures, évidemment. On va évoquer quelques modèles iconiques. Vous préparez une vente chez Aigüite, dans laquelle on pourra retrouver quelques-uns des modèles dont on va parler. D'abord, là, une maquette comme ça, quelle échelle est cette maquette?
On est sur du un huitième, un cinquième, un huitième.
Qui va être intéressé par ce genre d'objet issu des usines issu des ateliers de design, issu de chez Porsche, les fous, les dingues de Porsche?
Les fous, les dingues de Porsche, les collectionneurs, plus ou moins avertis, parce que certains diront que c'est un très bel objet, d'autres diront que c'est un objet extrêmement rare. Ceux qui s'y intéresseront et qui seront capables de monter très haut dans les prix sont à mon avis, des collectionneurs avisés, certainement des propriétaires de Porsche 904. Il faut savoir qu'une Porsche 904, aujourd'hui, on est entre 1,7 million et 3 millions en fonction du palmarès. Le palmarès, c'est les courses auxquelles elles ont participé. Et il faut savoir que ce marché, il est extrêmement dynamique. Donc, quand on est propriétaire d'une voiture qui vaut 2,5 millions, en fait, s'acheter une maquette dont l'estimation est entre 6 et 8 000 euros...
C'est un accessoire.
L'acheter 15 000, 20 000, 30 000, en réalité, il n'y a pas réellement de prix. Il y a plus la volonté de l'avoir. Et donc, du coup, on s'arme pour pouvoir l'acquérir.
On parle de palmarès parce que nous parlons de course auto avec vous, Gauthier Rossignol. Vous pourrez parler de Porsche 911, de Porsche 997, là, de Porsche 904. Mais on peut aussi parler de Mini ou de deux chevaux. Racontez-nous la place de ces modèles beaucoup plus populaires dans l'univers de la course.
Alors, chez Agut, on a la volonté de défendre toutes les voitures parce qu'on aime vraiment ça. On est passionné et en faisant notre métier, on se doit de défendre l'intérêt de nos clients, nos vendeurs. Et en fait, une voiture de collection, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut l'acquérir de 1000 euros à plusieurs dizaines de millions d'euros, pour parfois centaines, pour les derniers records. Un objet, qu'il soit populaire ou exceptionnel, a toujours un prix. La seule chose, c'est que 24 km, vous l'avez cité, 24 km sur une voiture de course, bon, ça n'existe quasiment pas, mais sur une voiture populaire, c'est impossible. La Mini,
24
en l'occurrence,
km au compteur,
ça veut dire que la voiture n'a jamais roulé.
Ouais.
Voilà, on a vendu en effet une deux chevaux, tout à l'heure vous m'avez présenté comme ça, 142 000 euros au départ du Tour Auto en 2021. La voiture est estimée entre 50 et 70 000 euros, 142 000 euros en résultat final. Le monde entier se l'est arraché, on avait plus de 10 personnes dessus.
Elle est quasiment neuve, on peut
elle
dire
elle était
ça.
Neuve, elle n'avait jamais roulé, elle n'avait même jamais été immatriculée. Là, en l'occurrence, c'était exceptionnel parce qu'un objet populaire comme une deux chevaux, bah, c'est la deuxième voiture du foyer, c'est censé rouler, faire 50 000, 100 000, et peu importe, entre guillemets. Elle est là pour rendre service. La Mini, c'est pareil, c'était souvent la voiture bourgeoise, la deuxième voiture des familles bourgeoises, dans le 16e, dans le 8e, un peu
c'est
partout dans les
le
grandes villes.
C'est toujours le cas avec les Mini Cooper.
C'est toujours le cas avec les Mini, modernes du groupe BMW. Là, en l'occurrence, cette voiture qui était dédiée à être la seconde voiture du foyer n'a fait que 24 km, les 9 km qui la séparaient de la concession et ensuite les 15 km que faisait la voiture pour s'assurer qu'elle soit apte à être immatriculée pour son premier propriétaire. Donc en réalité, ces 24 km font de cette voiture une voiture quasi inestimable en prix parce que oui, il y a une cote, mais il y a une cote pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Mais une voiture de 24 km, ce n'est pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde.
Si on touche un mot des deux chevaux et de celle que vous allez avoir en vente au moment
du Tour Auto
à Gut, on peut parler d'excellence française, parce que la deux chevaux, c'était une voiture française.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on a appelé cette collection The Crunch. Le Crunch, c'est France-Angleterre au rugby.
Elle est aussi dans la voiture, entre la deux chevaux et la Mini.
Deuxième passion après les autos. Mais c'est l'icône de l'Angleterre, créée par Alec Kissigonis en 1959, et l'icône française, créée par André Citroën, est présentée à l'aube des années 50. Donc, c'est un match franco-anglais, et certainement avec les deux plus grandes icônes, populaires bien sûr, mais qui sont passées dans un deuxième temps au rang de voitures un peu désuètes, et puis au gré des modes, qui sont devenus vraiment les fers de lance de certains constructeurs. Citroën n'a toujours pas sorti de deux chevaux. Je ne suis pas très inquiet sur le fait que ça sorte sur nos tablettes dans pas longtemps.
Justement, sur les gens qui vont acquérir aux enchères des voitures comme des Mini ou des deux chevaux des années 50, des années 60, est-ce que vous observez une partie de ces propriétaires qui vont les rétrofiter, qui justement, pour pouvoir s'en servir, toujours peut-être comme la deuxième voiture du foyer, sans problème, qui vont la rétrofiter, c'est-à-dire mettre un moteur électrique à la place d'un moteur thermique pour être plus tranquille?
Le rétrofit et l'univers de la collection sont deux choses qui n'ont pas vraiment de qui partagent pas vraiment de
et qui ne se rencontrent pas sur ce genre de modèle, parce qu'enlever le moteur, ce serait enlever une partie.
Si vous voulez qu'on parle d'investissement, le rétrofit, c'est de l'amusement, c'est très bien, il faut en parler, c'est très bien pour demain. Il y a des sociétés merveilleuses qui font ça très bien, je pense au Mary Club Cassis. La seule chose, c'est que si on parle d'investissement pour la collection, on va chercher l'authenticité, l'originalité. Vous transformez une voiture, ce n'est plus un objet de collection à proprement parler, selon la loi. Un objet de collection, déjà, c'est un objet qui a plus de 30 ans, qui n'a jamais été modifié. Et en l'occurrence, on le voit, pour les meilleurs investissements, ce sont, on va parler vulgairement de produits, les produits qui sont restés intouchés, toujours préserver
original.
Le plus original possible. Exactement.
Combien de voitures dans cette vente et comment, à combien de véhicules on peut estimer ce marché de la collection, par exemple pour les deux chevaux? Est-ce qu'on a une idée du nombre de deux chevaux qui est en vente et quel est le pourcentage qui passe chez vous?
La deux chevaux, c'est plus de 5 millions d'exemplaires. Les voitures qui passent aux enchères, je veux dire qu'il y en a une centaine par an. Des deux chevaux plus exceptionnels, il y en a 5 et puis il y en a une tous les 4 ans. En l'occurrence, la dernière, c'était 2021. Si on veut parler de collection à proprement parler, le marché de l'automobile de collection, c'est 476% d'augmentation entre 2008 et 2015. Plus de 300% entre 2012 et 2015. On a vu un tassement à partir de 2016, parce que les prix se sont envolés jusqu'en 2015. Et puis le Covid, contre toute attente, a vraiment redynamisé le marché. La seule chose, c'est qu'il l'a redynamisé sur un marché beaucoup plus pointu et beaucoup plus jeune. Le marché générationnel, au gré des modes. Aujourd'hui, les plus gros collectionneurs n'ont plus 70 et 80. Ils ont plutôt entre 40 et 60 ans. Et ils collectionnent la voiture qu'ils avaient en poster dans leur chambre. Mais il y a aussi un marché de niche. Les voitures populaires sont un marché de niche. Mais les voitures de course en sont un autre, et avec des valeurs nettement plus importantes. On sait que des 250 GTO valent 70 millions d'euros, entre 50 et 70 millions d'euros. Une 904, ça valait 1 million d'euros il y a 15 ans. On est quasiment au triple aujourd'hui. Voilà.
Voilà les metrics, les chiffres pour illustrer ce marché de l'automobile. Vous préparez avec toute l'équipe Agut le tour auto. Vous viendrez nous en parler a posteriori, peut-être les enchères les plus folles que vous aurez vu passer. Merci d'être venu avec ce magnifique prototype de la Porsche 904 GT.
C'est ça, GTS.
GTS, à retrouver en vidéo et en podcast cette séquence avec Gauthier Rossignol, directeur automobile de collection chez Agut. C'est la fin de Tout pour investir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'émission, d'avoir été connectés. Eric nous demande de dire à Jean-Marc que la semaine prochaine, ça serait bien qu'il nous explique les origines de travailler au noir. Travailler au noir. Voilà, on va travailler Jean-Marc là-dessus. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, pas de panique, vous pouvez la retrouver en podcast et en replay d'ici quelques minutes. Demain, nous serons là dès 10h. On a prévu de parler de la renaissance des fonds euros. Et puis aussi, on fera un abécédaire du franglais. Un abécédaire du franglais, parler dans l'univers du non-coté. Sandra Gondouin nous a rejoint. Bonjour Sandra.
Bonjour Lorraine.
Avec vous, c'est dans quelques minutes. Quel est le programme de l'émission?
On va parler de maîtrise du français en entreprise. On va parler de est-ce qu'il faut licencier ou geler les embauches en cas de ralentissement de l'activité. Comment adopter aussi les nouvelles technologies en entreprise. Et est-ce que vous lisez aussi votre bulletin de paye tous les mois ou est-ce que vous passez votre tour?
Ah, j'attends qu'il ait moins de 30 lignes.
Voilà pour les questions qu'on va traiter. Et puis toutes celles évidemment que vous allez nous poser à cette adresse avec vous. BFMBusiness.fr.
C'est à partir de midi et à 15h, Amaury prend les manettes de BFM Crypto, le club. Quel est le programme, cher Amaury?
Rebonjour, on reparlera quand même de ce qui s'est passé ce week-end, notamment on se concentrera sur le marché des altcoins, hein, toutes les autres cryptos qui ont beaucoup chuté. On se demandera pourquoi, et puis on va peut-être réconcilier Jean-Marc Daniel avec les crypto-monnaies. On parlera du vin de Bordeaux, voilà, qu'on peut acheter du vin de Bordeaux en primeur via la blockchain. Donc ça se passe tout à l'heure à 15h, ici même.
Voilà, BFM Crypto, le club, tous les jours à 15h, 21h30, et puis à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en podcast. On se quitte avec le Bitcoin qui se traite autour de 63 299 dollars. Il est 11h57 sur BFM Business. À demain.
Tout pour investir sur BFM Business.